السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du 13 ذو الحجة 1428، c'est-à-dire le 22 décembre بإذن عز وجل، dans le 11e cours du درس les règles du mariage. طيب. On s'était arrêté la fois passée. Hein? D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse ici. La fois passée, on avait bien parlé des tuteurs. Les tuteurs, hein? Qui viennent d'abord, ensuite qui le précèdent, etc. Et vraiment, hier, quand je vous ai posé la question du tuteur et que vous aviez répondu faux, hein? Ça a fait un peu d'effet pour moi. Je me dis, subhanallah. Combien de fois j'ai expliqué le tuteur, combien on est resté dans le DAS passé, en train de rester de parler des tuteurs, etc. Et à la fin, quand j'ai dit qu'une femme veut se marier et qu'elle avait, hein, elle avait le petit-fils, le fils de son fils, et elle avait le frère. Et j'ai dit qui doit prier. Frère et sœur ont répondu le frère. Subhanallah ta'ala. Ils ont sauté le petit-fils et ils sont partis vers le frère. Alors que le frère vient en troisième position. On commence par le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. S'il n'y a pas, on descend, on voit si elle a un fils. Si elle a un fils, un petit-fils, un petit-petit-fils, et comme ça. S'il n'y a pas, on va aller au frère. Et non pas, subhanallah al-azim, le frère avant le fils, ou le petit-fils, ça c'est jamais eu. Al-Muhim, Allah ya'allamna dinna, Allah ya'allamna dinna. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, al-mu'allif, rahimahullah, a dit, ويحرم بالعقد ويحرم بالعقد زوجة أبيه. Maintenant, on va parler. C'est un nouveau chapitre. Nam, on a terminé avec l'allaitement. Nam, on avait dit que l'allaitement devait se faire dans les deux années. Nam, c'est la première condition. Et la deuxième, il faut que ça soit 5 allaitements. Il faut que ça soit 5 allaitements. Et on avait dit troisièmement que certains avis, Cheikh Islam, Ibn al-Qayyim, les autres disent que il est permis d'allaiter quelqu'un qui est grand, qui est âgé, même si c'est un homme, on l'allaite en lui dans un récipient 5 fois et non pas par la poitrine, si vraiment on est dans l'embarras, le grand embarras. Et c'est aussi l'avis de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui disait aux filles de ses sœurs, que si elle voulait faire entrer quelqu'un, elle était dans la daroura, qu'elle lui donnait à boire du lait. Alors que toutes les autres épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand je dis toutes les autres, ça veut dire à part Aïcha, radiallahu ta'ala, ça veut dire les 8 autres n'ont pas été convaincues de cet avis, et on dit, on croit, elles ont dit comme ça, on croit que ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Salim, ils ont dit sûrement que c'était une particularité. C'était une particularité à ce sahabi. Et que personne d'autre, si il est âgé, il dépasse les 2 années, on peut lui donner à boire. Et c'est pourquoi elles ont empêché quiconque de rentrer, de se dévoiler devant, qu'elle se dévoile devant lui, hein, s'il prenait le lait. Elles ont dit, nous, on accepte ça, on n'accepte pas ça. Donc, même chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà cette différence, disons, cette divergence. Naam. Seule Aïcha a dit, ça se fait. Et ça se fait pour tout le monde qui est dans le même cas que Mawla Hudhayfa, que celle Mawla Hudhayfa. Mais les autres ont dit non, c'est une particularité pour lui. Al-Muhim. Aujourd'hui, on va passer. Donc, dernièrement, on a vu quoi? On a vu celles qui deviennent interdites. On ne se marie pas avec elles si elles viennent de l'allaitement. Maintenant, on va parler de celles qui deviennent interdites. Par quoi? Interdites par l'acte de mariage. C'est-à-dire quand on fait l'acte, le tuteur, les témoins, et on lui dit, je suis venu demander votre fille, etc. Quand on fait cet acte, quelles sont celles qui sont interdites? Il a dit, وَيَحْرُمُ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَبِيهِ وَكُلُّ جَدٍّ وَزَوْجَةُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ دُونَ بَنَتِهِنْ وَأُمَّتِهِنْ وَتَحْرُمُ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَجَدَّتُهَا بِالْعَقْدِ وَبِنْتُ أَوْلَادِهَا بِالدُّخُولِ. طيب. Quand il a dit, وَيَحْرُمُ بِالْعَقْدِ, et, ça veut dire, il a dit, et devient interdit suite à l'acte de mariage, après avoir fait l'acte, devient interdit. Vous comprenez ce que je veux dire par l'acte? Ce n'est pas il a consommé le mariage, pas par consommation, par acte seulement. Quand le tuteur rencontre le prétendant et les deux témoins et ils font l'acte. L'acte, qu'il soit par écrit ou qu'il soit verbalement, ou bien ils parlent seulement, ou bien ils l'écrivent par exemple. Naam. Donc, devient interdit. Si on fait l'acte de mariage, qui devient interdit? Awalan, il a dit Zawjatu Abih, de son père. Son père a épousé une femme, n'a pas encore consommé. N'a pas encore consommé. Naam. On est en train de parler du contrat de mariage et non pas de la consommation. Quand on fait le contrat de mariage. Naam. Si un homme fait un contrat de mariage avec une femme, il n'a même pas encore consommé le mariage, cette femme est déjà interdite pour son fils. Son fils ne peut pas se marier avec elle, même si cet homme qui a fait le contrat de mariage ne va pas l'épouser. Même s'il meurt, il va mourir, son fils ne peut jamais l'épouser. Soit il consomme avec elle le mariage, ou il ne consomme pas. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est il a fait le contrat avec cette femme. Quel est le délit? Allah Ta'ala a dit dans le وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ نعم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Regardez bien le verset. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Exception faite par le passé, c'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Donc, il n'est permis à personne d'épouser la femme de son père, même comme j'ai dit, si son père ne consent pas le mariage. Il divorce avant de rentrer. Ou même si son père meurt, il ne peut pas épouser la mère, l'épouse de son père. Et vous avez lu ce verset, et lisez le verset qui va venir et comparez. Lorsque Allah Ta'ala, en parlant de la zina, il a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Regardez bien, pour ceux qui méditent le Coran, quand il a parlé de celui qui épouse la femme de son père, les maharim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Et quand quelqu'un fait la zina, il a dit seulement deux choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Mais penser se marier avec l'épouse du père, c'est quoi? C'est une turpitude, ensuite une abomination et quelle mauvaise conduite. Donc vous voyez que c'est grave. Naam, en arabe, il a dit, Inna kana fahishatan wa maqtan 2, 3, et sa'a sabila. Mais pour la fornication, c'est seulement, wa la taqrabu zina inna kana fahishatan wa sa'a sabila. Il n'a pas dit maqtan. Pour dire que maqtan, c'est une abomination. C'est très très grave d'épouser les maharim. Ce qu'on appelle maintenant de nos jours, par exemple, l'inceste. Naam, entre frères et sœurs, entre fils et mères, et comme ça. Naam, ça s'appelle l'inceste, c'est très grave. Pourquoi? Parce que la personne aura alors fait deux choses. Se marier avec l'épouse du père est plus grave que la fornication. Naam, on a fait quoi? C'est une fornication, en plus quoi? C'est, on s'est marié avec un mahram. Un mahram avec une personne avec laquelle on ne peut jamais se marier. Donc on a fait deux grandes fautes, deux grands péchés. Naam. Et ولهذا كان القول الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم. الشيخ الله يرحمه a dit, c'est pour ça que l'avis le plus juste et le prédominant, c'est que quiconque fait la fornication, نعم, pardon, se marie, نعم, فإنه يقتل بكل حال. Quiconque fait l'inceste, de se marier avec quelqu'un qui est des maharim, il doit être tué. Il meurt, hein, dans tous les cas. Non, dans tous les cas. Alors que dans la zina, il ne meurt pas s'il n'était pas marié. Si c'était quelqu'un qui s'est jamais marié et qui a fait la zina, qu'est-ce qu'on lui fait? On va le fouetter, son coup de fouet. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Mais s'il était marié et il a fait la zina, il doit être lapidé et elle doit être lapidée jusqu'à ce qu'il meure. Donc ils doivent mourir. Ça, là, quand c'est la zina. Mais quand c'est l'inceste, c'est dans tous les cas, il doit mourir. Il ne va pas dire, pardon, je ne me suis jamais marié. Ou là, la fille va dire, c'est la première fois que je fais ça, je ne me suis pas marié. On lui dit, non, dans ce cas, tout celui qui fait cette chose doit mourir. Mais dans la fornication, on fait la différence entre celui qui est déjà marié et celui qui s'est jamais marié. وقوله ويحرم بالعقد هل يشترط أن يكون العقد صحيحا؟ Lorsqu'on a dit au début, on a commencé, on a dit sont interdites, نعم, sont interdites, attendez, qu'est-ce qu'il a dit ici? Les femmes interdites, نعم, sont interdites par contrat de mariage. Et il a cité l'épouse du père. Sont interdites par contrat de mariage. Et il a commencé à citer des noms. Il a commencé par l'épouse du père. Est-ce que c'est une obligation que le contrat de mariage soit un contrat valable ou bien même si le contrat n'est pas valable? Est-ce que il faut que le contrat soit valable pour que l'épouse du père, par exemple, devienne interdite ou même si c'est un contrat qui n'est pas valable, c'est la même chose. الجواب نعم نعم لأن العقد غير صحيح لا يسمى عقدا. Il a dit نعم. Pour que la femme, par exemple, devienne interdite, disons pour que, dans ce cas ici, pour que la femme, l'épouse du père, devienne interdite au fils, il faudrait que le contrat soit un contrat valable. Car si c'est un contrat qui n'est pas valable, ça ne s'appelle, pour l'appeler contrat, pour que ça soit valable. Naam. On va donner un exemple. Naam, il a dit, فَلَوْ تَزَوَّجَتْ اِمْرَأَةٌ شَخْصًا وَلِي وَالْوَلِي كَمَا سَبَقَ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فَلَوْ مَاتَ جَلِي شِخْلَ. Non, Smaïl, il n'y a pas de son. Attention, je crois que le son n'y a pas chez toi, c'est toi. Attends, je vais attendre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alhamdoulilah. Smaïl, attention au zéro. Hein? Attention au zéro. Je disais que. Non, on va donner un exemple. On va donner un exemple de contrat qui n'est pas valable. Un homme a épousé une femme sans le wali, sans son tuteur. Alors que vous savez que le tuteur de la femme est une condition dans le contrat de mariage. Maintenant, ce contrat n'est pas valable, puisqu'elle s'est mariée sans quoi ? Sans tuteur. Donc maintenant, si l'homme qui l'a épousé par contrat, il n'a pas encore consommé le mariage, s'il meurt, son fils à lui, qui n'est pas le fils de cette femme, son fils à lui, de celui qui est mort, peut se marier avec cette femme. Inch'Allah ta'ala, est-ce que c'est compris? Pourquoi ici le fils peut se marier avec la femme de son père? Son père, premièrement, n'a pas consommé le mariage. Et deuxièmement, plus important, son acte de mariage n'était pas valable. Il s'est marié avec elle. Mais si jamais il se marie avec elle alors que son père avait fait un acte valable, ou alors que son père avait consommé le mariage aussi, être tué. Et le hadith dit que عن عم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم l'oncle de البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه a dit mon oncle a dit le prophète صلى الله عليه وسلم m'a envoyé chez un homme تزوج امرأة أبيه m'a envoyé chez un homme qui avait épousé la femme de son père. Ba'dahu, c'est-à-dire après sa mort. Son père est mort, il s'est marié avec qui? Avec l'épouse de son père. Il a dit, le messager d'Allah m'a envoyé chez un homme qui a épousé l'épouse de son père, après lui, pour que je frappe son cou et que je prenne son argent. Je frappe son cou et je prends ses biens aussi. Je prends ces biens aussi. Le hadith se trouve dans Irwa al-Ghalil, 2351. Et en Tirmidhi, Abu Daoud, Tirmidhi, Sahih Tirmidhi, 1362, Sahih Abi Daoud, 4457. Donc maintenant, on a fini avec cette chose. Quiconque épouse la femme de son père, il meurt et on lui prend ses biens. Premièrement, il meurt. Et deuxièmement, une grande punition pour que ça soit une mise en garde pour les autres, on lui prend aussi ses biens. Naam. Tayyib. Sauf dans le cas où il s'est marié avec elle, comme j'ai dit, et il a fait un contrat qui n'est pas valable et n'a pas consommé le mariage. إذن يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبي وإن علا. Il a dit ici, quand on dit qu'il lui est interdit d'épouser la femme de son père, ça ne veut pas dire son père, seulement son père, mais aussi, il lui est interdit d'épouser la femme de son grand-père et la femme de son arrière-grand-père, jusqu'à ce qu'on monte à Hawa, la femme du premier père, Hawa. Il est interdit qu'il épouse la femme de son père, et on monte grand-père, grand-grand-père, grand-grand-père, jusqu'à Adam alayhi salam. Naam. Et si quelqu'un va dire, mais le Coran a dit, وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنْ نِسَا. Mais le Coran a dit, n'épousez pas les femmes, les épouses de vos pères. Naam. Pourquoi vous dites que ici le grand-père rentre aussi? Naam. On va dire, parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Millata abikum Ibrahim, Al-Hajj 78. Allah Ta'ala dit, la religion de votre père Ibrahim. Alors que Ibrahim alayhi salam, la voix de votre père Ibrahim. Alors que Ibrahim alayhi salam n'est pas mon père. C'est qui? C'est mon arrière grand-père. Et il l'a appelé comment? Il l'a appelé père. Il a dit, mon père, votre père Ibrahim. Naam. مسألة. Donc, Maintenant, on va à une autre chose. Mas'ala. لو أن رجلا زنا بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفروعها? Si on supposait qu'un homme faisait la zina, la fornication avec une femme, فهل يحرم عليه أصلها وفروعها? Est-ce que cet homme maintenant, après avoir fait la zina avec cette femme, est-ce que il peut se marier avec sa fille ou sa mère? Non, il peut se marier avec sa fille ou sa mère. Maintenant, je vais donner un exemple. Je vais pas citer Rachid et Rachida. Car Rachida ne fait pas le zina et Rachid ne fait pas la zina aussi. Donc, il y a un khabith, il s'appelle khabith. Il y a un khabith qui a fait la zina avec la khabitha. Non. Maintenant, est-ce que le khabith peut épouser la fille de la khabitha ou bien il peut épouser sa mère? Il peut épouser sa mère de la khabitha. Car le mariage, il ne peut pas. Maintenant, au mariage, c'est interdit que quelqu'un épouse une mère et sa fille. Non. Ou là, une fille et sa mère. Mais maintenant, on parle de zina, on ne parle plus de mariage. Non. La réponse, la yahrum, ce n'est pas interdit. لأنه لا يدخل في قوله تعالى وأمهات نسائكم. Ce n'est pas interdit, car Allah Ta'ala, quand il a dit que sont interdites pour vous les femmes de vos épouses, les femmes de vos épouses, il a dit ici la mère de la khabitha n'est pas la mère de ton épouse. Il n'y a pas ici mariage, il n'y a pas époux et épouse. Naam, Allah Ta'ala a dit, est interdite la mère de ton épouse. Et ici, c'est la mère de qui? C'est la mère de la khabitha. Naam, ce n'est pas la mère de mon épouse. Je ne me suis pas marié avec la khabitha. Il a fait la zina, c'est tout. Donc il a dit, ce n'est pas interdit. Naam. Donc si un homme fait la zina avec une femme, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, il lui est permis de se marier avec la fille de la femme avec laquelle il a fait la zina. Ou bien, il se marie avec la mère avec laquelle il a fait la zina. Naam. Et ça me rappelle qu'il y a des athars ici. Naam. Ça se trouve dans Fath al-Bari. Fath al-Bari. An Abdillah ibn Abbas fi rajulin. An Abdillah ibn Abbas. في الرجل يزني بأم امرأته. On a demandé à Abdullah ibn Abbas, un homme, Naam, qui fait la zina avec la mère de sa femme. Un homme a fait la zina avec la mère de sa femme. Naam. Il a dit, est-ce que yani, ça devient haram? Sa femme devient haram parce qu'il a fait la zina avec sa mère? Il a dit, تخطى حرمتين ولا تحرموا عليه. Il a dit, cet homme a fait deux grands péchés, mais sa femme ne devient pas interdite pour lui. Il a fait quel grand péché? Le premier péché, d'avoir fait la zina. Le deuxième péché, d'avoir fait la zina avec une femme yani, qui il ne peut même pas se marier avec elle. Yani, elle est très proche de lui, c'est la mère de sa femme. Subhanallah al-Azim. Il a dit, mais elle ne devient pas interdite pour lui. Isnadu sahih. Ça se trouve dans le tome 9, page 156. Waqala Abdullah, waqala Ibn Abdul Barr, waqad ajma'a ahlul fatwa min absar ala annahu la yahrumu ala zani tazawwuju man zana biha. Fa nikahu ummiha wa ibnatiha ajwaz. Naam, page 157. Ibn Abdul Barr, le grand malikite, a dit qu'il y a une unanimité des savants qui disent que la yahrum al-zani tazouj man zana biha. Il a dit que il n'est pas interdit à celui qui fait la zina avec une femme de se marier avec elle. Bien sûr, si les deux font quoi? Si les deux font le repentir, quelqu'un qui a fait la zina avec une femme, il peut se marier avec elle. On peut se marier avec elle, ça va venir, c'est dans ce cours, je crois, si on a le temps. Non, à condition que quoi? qu'elle fasse sa période de viduité, 3 menstrues. Et que quoi? Qu'ils ont fait la tawba, ils ont regretté, ils ont pleuré, etc. etc. Naam. Il a dit ici, puisque il peut se marier avec la femme avec laquelle il a fait la zina. Alors pourquoi ne peut-il pas se marier avec sa mère et sa fille? Subhanallah, vous comprenez? C'est très raisonnable. Très raisonnable. Comment? Je fais la zina avec une femme. Je peux me marier avec elle. Après avoir fait la zina avec elle, bien sûr avec parenthèse de Toba, et je ne peux pas me marier avec sa mère et sa fille, avec lesquelles je n'ai pas fait zina. Donc c'est contradictoire. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le vrai c'est quoi? Il peut se marier avec la mère, hein, de la fille avec laquelle il a fait la zina. Hein. Et il peut se marier avec la fille de la mère avec laquelle aussi il a fait zina. Hein. Et cette chose, ou là, cette mes'ala, beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes croient que s'il fait la zina avec sa mère, alors sa femme est divorcée. Et il a divorce avec ses enfants, etc., croyant qu'elle est devenue haram. Il a dit, puisque je ne peux pas joindre entre une femme et sa mère, et puisque maintenant j'ai joint, hein, je me suis marié avec sa fille, et j'ai fait zina avec sa mère, donc tout devient haram, et il divorce sa femme. Tout ça à cause du djehl. Naam. C'est autre chose. Waqawluhu est interdite aussi. On passe à la deuxième femme. La première femme qui est interdite, c'est qui? Écris-moi, Ismaël. C'est qui la première femme qui est interdite? Pour voir si vous suivez avec moi. C'est qui la première femme qui est interdite par contrat de mariage? L'épouse du père. Jazakallahu khair. Un, l'épouse du père. Tu écris avec les numéros. Deux, Zawjatu ibnihi wa in nazal. Deuxièmement, l'épouse de son fils. L'épouse de son fils. Un homme qui a un fils, son fils est marié. Non. Il ne peut pas épouser sa fille. Pardon, il ne peut pas épouser la femme de son fils. Quand je dis le fils, ça rentre le petit-fils et le petit-petit-fils et le petit-petit-fils et on descend. Et on descend et on descend et comme ça, jusqu'au jour du jugement dernier. Il ne peut jamais épouser la femme de son fils, ni la femme du petit-fils, ni la femme du petit-fils. Tout ce qui est ben, les ascendants, on appelle ça les ascendants. Pardon, les descendants. Car on a les ascendants, ceux qui montent. Et on a les descendants, ceux qui descendent. Là, tous les descendants du fils, tous les descendants du fils, là, tous les descendants du fils, leurs épouses sont interdites à qui? Au père du fils. Au père du fils. Ça y est, une seconde, le micro, il fait un problème. J'essaie de l'attacher. Alhamdoulilah. Allah Ta'ala a mis une condition. A mis une condition dans le fils. Il faut que le fils soit son fils à lui. Son fils à lui qui est venu de ses reins. Allah Ta'ala dit dans le Coran, parmi celles qui sont interdites, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Et vous sont interdites, et vous sont interdites les femmes de vos enfants, de vos fils, qui viennent de vos reins. C'est-à-dire, pour ne pas les femmes de vos fils nées de vos reins. Naam. Naam. Pourquoi? Parce qu'il y a les femmes de nos fils d'allaitement. Il y a les femmes de nos fils d'allaitement. Naam. Je peux avoir un fils d'allaitement. C'est-à-dire un enfant à allaiter ou à téter. À téter la poitrine de ma femme. Celui-là, c'est qui? C'est mon fils d'allaitement. Naam. Celui-là, il va se marier avec une femme. Naam. Et ensuite, il la divorce. Ai-je le droit de me marier avec elle? Ou bien c'est interdit, me basant sur le verset, les femmes de vos fils. Je dis, et bien sûr, Cheikh Ibn Othaymin aussi dit, et Cheikh Ibn Taymiyyah aussi l'a dit, il est permis qu'il se marie avec la femme de son fils d'allaitement. Ici, quelqu'un me dit, mais Allah Ta'ala a dit dans le Coran, les femmes de vos fils. Je lui dis, sah, mais pourquoi tu ne termines pas le verset? Allah Ta'ala a dit, les femmes de vos fils, nées de vos reins. Est-ce que celui-là, il est né de mes reins? Il n'est pas né de mes reins. Celui-là, il a allaité, il a tété la poitrine de ma femme. Ce n'est pas mon fils, c'est mon fils d'allaitement. Allah Ta'ala a mis comme condition, il faut qu'il soit un fils de tes reins. Un fils qui a été créé par ton liquide mélangé au liquide de ta femme. Je ne connais pas celui-là. Et seulement lorsqu'il a tété la poitrine de ma femme, il est devenu mon fils. Mais il n'a pas été créé de mon lait. Non. Et bien sûr, la plupart des ulamas disent que ce n'est pas permis de se marier avec la femme du fils de lait. Mais comme j'ai dit, Ibn Taymiyyah, disent que l'avis le plus juste, c'est que c'est possible. Car Allah Ta'ala dit de vos reins. Et le Coran ne contient jamais un mot en plus. Naam. Pourquoi Allah Ta'ala a dit de vos reins? Pourquoi il n'a pas dit de vos fils? Et il laisse ça en général. Il dit de vos reins pour que le jugement ne soit pas général. Pour que le jugement soit seulement au fils des reins. Pour que tu ne fasses pas rentrer dans le verset le fils adoptif et tu ne fais pas rentrer dans le verset le fils de quoi? Du lait. Naam. Ismaël, est-ce que vous êtes là? Naam. Ensuite, il a dit دون بناتهن وأمهاتهن دون بناتهن et أمهاتهن. Apprenez bien ce qu'on est en train de dire. Ce sont des choses très importantes. Naam. Vous rencontrerez beaucoup de problèmes dans les familles. Est-ce qu'il est permis de marier avec celui-là, avec celle-là? Ma soeur, est-ce qu'elle peut se marier avec mon frère de lait, avec ceux? Toutes ces choses-là, ce sont des ni'mas qu'il faut apprendre et retenir et bien mémoriser et connaître les délits, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, comme le délit que je viens de donner maintenant. Naam, quand quelqu'un me dit tu ne peux pas épouser la femme de ton fils de lait, tu lui dis donne-moi le délit. Il ne trouvera aucun délit que le verset que je viens de citer. Et le verset est quoi? Est contre lui. Le verset est contre lui. Il a dit de vos reins. Toi, tu es en train de parler d'autre chose. Ensuite, il a dit Douna banatihinna wa ummahatihin. C'est-à-dire qu'il a dit sauf, ou là, pardon, excepté quoi? Banatihinna. Leurs filles et leurs mères. Banatihin, leurs filles et leurs mères. C'est-à-dire, ay banat ou zaujat, c'est-à-dire les filles de l'épouse de son père. Maintenant, il est en train de parler des choses permises, des femmes permises. Hein? On avait parlé de celles qui n'étaient pas permises. Maintenant, il parle de celles qui sont permises. Il a dit, sauf, naam, ay, banati zaujati abih, les filles de l'épouse de son père. Naam. Et il a dit avant ça, wa banati zaujati, pardon, après, wa banatu zaujati abih, et les filles de l'épouse de son fils. Les filles de l'épouse de son fils. ومعلوم ان المراد بنات زوجة ابيه من غير جدته. Quand il a dit ici les filles, naam, de l'épouse de son père de sa grand-mère, son père qui n'est pas de sa grand-mère ou bien qui n'est pas de sa mère. C'est-à-dire فلو كان للابي زوجة ولها بنت من غيره وهذه الزوجة ليست ام لولده. Il a dit, on donne un exemple. Un père qui a une épouse. Un père a une épouse. Et cette épouse a une fille. A une fille, pas de cet homme, pas de mon père. Une fille d'un autre homme. Ici, il est permis au fils de se marier avec cette femme. Ici, il est permis au fils de se marier avec cette femme parce que il n'y a pas de relation entre les deux. Ce n'est pas sa sœur et ce n'est pas sa mère. Naam. Pour que vous compreniez, je donne un exemple. Pour que vous compreniez, je donne un exemple. Tayyib. Comment dire cela? Pour rapprocher un homme se marie avec une femme qui a déjà une fille d'un autre homme. Il est permis de se marier avec cette fille. Naam. Pour que vous compreniez un peu, moi, parlons de moi maintenant, si je vais à Rachid, ça va se compliquer. Moi, naam, j'ai un père. J'ai un père qui il va se marier avec une femme. Ou là, il s'est marié avec une femme. Cette femme, quand mon père s'est marié avec elle, elle a ramené une fille d'un autre homme, car elle était déjà mariée avec un autre homme et il est mort, ou bien l'a divorcé. Or, cette femme qui s'est mariée avec mon père a une fille, qui n'est pas la fille de mon père, bien sûr. C'est la fille de la femme avec un autre homme. Cette fille, moi, je peux me marier avec elle. Moi, qui suis le fils de mon père, je peux me marier avec la fille de son épouse, la fille de l'épouse de mon père. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fille qui a été créée par le liquide de mon père et le liquide de son épouse. Mais c'est une fille étrangère qui a été créée par le liquide de cette femme, l'épouse de mon père, avec un homme que je ne connais pas, un étranger, que je n'ai jamais vu. Naam. Donc, c'est une étrangère pour moi qui suis le fils de mon père. Je peux me marier avec cette fille. Naam. Et le contraire est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai. Naam. Mon père aussi, écoutez bien ça, mon père peut se marier avec la fille de ma femme. Écoutez bien ça, moi qui vous parle. J'ai une femme. Naam, j'ai une femme. Vous avez lu l'akhar. Vous avez lu la biographie. J'ai une femme. Ça. Quand je me suis marié avec une femme, ça c'est un exemple. Ça c'est pas vrai. Quand je me suis marié avec ma femme, elle a ramené avec elle une fille. Elle a ramené avec elle une fille. Elle était déjà mariée, elle a ramené une fille. Attention, ce n'est pas vrai, c'est un exemple. Cette fille, mon père aussi peut se marier avec elle. Pourquoi? Car il ne va pas se marier avec ma fille. Celle-là, ce n'est pas ma fille. C'est qui? C'est la fille de ma femme avec un autre homme. Naam, c'est la fille de ma femme avec un autre homme. Cette fille n'a pas été créée de quoi? De mon liquide. Si elle a été créée de mon liquide, mon père ne peut pas. Car mon liquide aussi est venu du liquide de mon père. Moi-même, je suis créé par le liquide de mon père. Mais comme ma femme a ramené une fille avec elle d'un autre homme, mon père peut se marier avec cette fille. Car ce n'est pas ma fille. Naam. Tayyib. Ismaïl, est-ce que c'est clair? Ismaïl, alhamdoulilah. Attends, je vais enlever un deuxième point rouge pour savoir que ce n'est pas toi seulement qui me dis c'est clair, peut-être que c'est pas clair pour les autres. Attends, j'enlève à grande étoile. La grande étoile, c'est clair ce que je dis ou là ce n'est pas clair? Est-ce que c'est clair et c'est compris ou là ce n'est pas clair pour ne pas avancer naam, et ensuite on va s'enfoncer dans la boue alors que vous n'avez rien compris? Est-ce que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala? Tayyib, grande étoile n'est pas là. Oum Abdallah, la première. Oum Abdallah, est-ce que c'est clair ce que je dis? Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est clair, Alhamdulillah. Tayyib, Alhamdulillah. Ismaïl tafadhal. Ensuite, il a dit, wa tahrumu. Quelle est la troisième personne qui est interdite avec le contrat de mariage? Je répète bien, la première c'est l'épouse de mon père. La deuxième, attendez, la deuxième c'est qui? La deuxième, l'épouse du fils. Ensuite, dans l'épouse du fils, on a donné une exception. On a dit, si l'épouse du fils a une fille, une autre fille, pardon, une fille d'un autre homme, alors celle-là, elle est permise. Troisièmement, quelle est la femme qui est interdite, qui devient interdite par contrat de mariage? La mère de la femme et sa grand-mère. La mère de l'épouse et sa grand-mère. Ay, aqd sahih, à condition que le contrat de mariage sur l'épouse soit un contrat valable. Dans ce cas, sa mère devient interdite et sa grand-mère aussi devient interdite. Naam. Fa ummu zawjati haramun bi mujarrad al-aqd. Vous savez que quand quelqu'un, apprenez bien ce que je vais dire, cette chose, apprenez-la bien, marquez-la bien et inchallah mémorisez-la pour que vous ne vous trompiez pas. Quand quelqu'un, c'est une règle, quand quelqu'un fait le contrat de mariage sur une épouse. Maintenant, Rachid vient de faire le contrat de mariage avec Rachid. Là, ils ont fait le contrat de mariage, masha'Allah, naam, les témoins étaient là, le tuteur, etc. Dès que Rachid fait le contrat de mariage avec Rachida, directement, à partir du moment où le tuteur a dit j'ai accepté de te donner Rachida, la mère de Rachida devient interdite pour Rachid pendant toute sa vie. C'est compris? Dès que Rachid fait le contrat de mariage avec Rachida, la mère de Rachida, Om Rachida, devient interdite pour le mariage à Rachid pendant toute sa vie. Naam, pendant toute sa vie, subhanallah al-azim. C'est-à-dire même s'il ne consomme pas le mariage avec Rachida. Il a fait juste le contrat, une semaine après il a dit elle ne me plaît pas, elle a des défauts. Ou bien la dot est très chère. Il s'est arrêté, il s'est rétracté. Jamais ce Rachid, jamais ne pourra épouser la mère de Rachida, jamais dans sa vie. Khlas. Tayyib. Fallu aqad ala ma talqa bidukhul haram ta'alumwa. Pourquoi il ne pourra jamais? Allah Ta'ala dit dans le Coran, parmi celles qui sont interdites, il a dit wa ummahatu nisa'ikum, et les femmes de vos épouses. Il a dit et les femmes de vos épouses. Elles sont interdites. Et celle-là, c'est qui? Oum Rachida, c'est qui? C'est la femme de mon épouse Rachida. Et Rachida, elle est devenue l'épouse de Rachid. En faisant le contrat, elle est devenue son épouse. Ce n'est pas la peine qu'il... c'est pas une condition qu'il consomme le mariage. Le fait de faire le contrat, classe, la femme est devenue mon épouse. C'est pour cela que vous avez sûrement remarqué cette chose que plusieurs gens ne connaissent pas cette chose. Ils croient que le mariage, c'est la consommation. Alors que le mariage, ce n'est pas la consommation. Le mariage, c'est le contrat de mariage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été marié avec Aïcha, radiallahu ta'ala anhu, quand elle avait 6 ans. Ce n'est pas quand elle a eu 9 ans. Quand elle a eu 9 ans, il a fait quoi? Il a fait le contrat de mariage. Il a fait la consommation. Mais son mariage a commencé quand elle avait, elle, 6 ans. Là, elle était sa femme. Elle était sa femme, naam. Pourquoi je dis cela? Vous trouvez dans des familles, il y a le prétendant qui vient. Il demande notre fille. On la lui donne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on fait l'acte de mariage la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait l'acte de mariage, alhamdoulilah. Et il dit, on va, inchallah, faire la fête et consommer le mariage dans 3 mois. Mais, avant que les 3 mois arrivent, il meurt. Naam. Et, ce que ne savent pas les gens, que quoi? Premièrement, ils ne savent pas que la femme ici, Rachida, doit faire la période de viduité. Subhanallah al-Azim. Il n'a pas consommé le mariage. Mais tu dois faire la période de viduité. Naam. 3 mois. Subhanallah al-Azim. Beaucoup de femmes ne savent pas. Elles disent, là, s'il est mort. Naam. Autre chose qu'elles ne savent pas aussi. Quelle quoi? qu'elles sont devenues, que la femme, l'épouse, est devenue héritière. Naam, elle demande l'héritage. Donnez-moi l'héritage qu'a laissé Rachid. Pourquoi on te donne? Il n'a pas consommé le mariage. Naam, mais il a fait le contrat de mariage. L'essentiel, ce n'est pas la consommation, l'essentiel, c'est le contrat. Il a fait le contrat. Je suis son épouse. Naam, je prends quoi? Je prends le quart de tout ce qu'il a laissé. Je prends le quart de tout l'héritage qu'il a laissé. Et beaucoup de, bien sûr, beaucoup de gens ne savent pas. Du côté de Rachida, beaucoup de gens ne savent pas. La famille de Rachida ne va pas demander l'héritage. Ils sont djouhel, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est leur droit. Et le père de Rachid ne sait pas aussi qu'il doit donner l'héritage à Rachida. Il ne sait pas. Et jamais il ne propose cette chose. Et mieux encore, si on lui demande l'héritage, il va dire, vous êtes fou. Hein? Mon fils est mort, et vous parlez d'héritage, et il n'a pas consommé le mariage. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne la religion. Beaucoup de gens, beaucoup de familles font des fautes graves. Subhanallah al-Azim. Il la prive du mariage, croyant que le mariage, c'est quoi? C'est la consommation de mariage. Naam. Tayyib, on revient ici à dire quoi? Quand quelqu'un fait le contrat de mariage avec une épouse, jamais, au grand jamais dans sa vie, il ne pourra épouser la mère de la fille avec laquelle il a fait le contrat de mariage. Qu'il la divorce, ou même, yani, sans la divorcer. Naam, qu'il la divorce. Naam, il ne pourra jamais épouser sa mère. Même si il la divorce, ou même si elle meurt. Naam, Rachida, Allah yirhamha, est morte. Allah yirhamha, Rachida. Miskina, on a beaucoup parlé d'elle, elle est morte. Rachida, Allah yirhamha, est morte. Et maintenant, Rachid peut épouser la mère de Rachida? Il ne peut pas. Pourquoi? Il a fait le contrat. Il a fait le contrat avec sa mère, c'est trop tard. Le contrat avec sa fille. Naam. Ensuite, il a dit, « وَبِنْتُهَا وَبَنَاتُ أَوْلَدِهَا بِالدُّخُولَ » qui sont interdites aussi, « بِنْتُهَا » sa fille, la fille de Rachida, « وَبَنَاتُ أَوْلَدِهَا بِالدُّخُولَ » et les descendantes de ses fils et de ses filles. Les filles de sa femme, hein, et leurs filles. Naam, et leurs filles. Quand je dis leurs filles, c'est-à-dire les filles de ses fils et les filles de ses filles. Et de ses enfants, pardon. Naam, les enfants, c'est des filles. On parle ici des filles, parce que c'est un homme. Il ne peut pas épouser les filles, c'est ça. Naam. Donc il ne peut pas épouser. On a dit tout à l'heure, il ne peut pas épouser la mère de Rachida. Et il ne peut pas épouser maintenant qui? Les filles de Rachida et les filles de ses filles et les filles de ses fils à Rachida. À condition quoi? À condition qu'il ait consommé le mariage. À condition qu'il ait consommé le mariage. Donc, pour bien expliquer cette chose, regardez ce que je vais dire. Non. Quand quelqu'un fait, non, le contrat de mariage avec une femme est interdite à vie pour lui, sa mère, la mère de la femme. Mais, la fille de cette femme et ses filles à elle et ses filles à ses fils à elle ne deviennent interdites que s'ils consomment le mariage avec la femme. S'ils ne consomment pas le mariage avec la femme, ses filles à elle et ses petites filles, etc., ne sont pas interdites à l'homme. Pour mieux comprendre, Rachid, qui vient de faire, attends, ce que tu as écrit, les filles de sa femme et leurs filles, Naam, et leurs filles, leurs petites filles, sont interdites à l'époux, à condition, Naam, qu'il consomme le mariage. Donc, regardez pour que vous compreniez bien, et je vais poser la question à Abdullah et à Grande Étoile, s'ils ont compris. Maintenant, Rachid a fait un contrat de mariage avec une femme, avec Rachida. Je dis, Om Rachida est devenue interdite à vie. Est devenue interdite à vie. Mais maintenant, Rachid a fait hein, le contrat de mariage avec la mère de Rachida. Attention, Rachid n'a jamais demandé à Rachida et il ne la connaît pas. Rachid veut se marier avec la mère de Rachida. Maintenant, quand il a fait le contrat avec la mère de Rachida, si jamais il divorce la mère de Rachida, il peut se marier avec Rachida ou bien la fille de Rachida. Et comme ça. Quand est-ce que Rachida devient interdit à Rachid? Elle devient interdite si Rachid consomme le mariage avec sa mère. Tant que Rachid n'a pas consommé le mariage avec la mère de Rachida, il la divorce. Ou bien la mère de Rachida meurt, alors il peut se marier avec Rachida et ses filles. Ou bien ses filles. Quand je dis et ça dit ou bien. Est-ce que vous avez compris, Oum Abdallah est grande étoile? Et que celui qui ne comprenne pas, qu'il dise non, j'ai pas compris, car c'est grave. Alhamdulillah. Je dis, hein, c'est pas quelqu'un qui dit j'ai compris alors qu'il n'a pas compris. Ismaël, tu as compris toi? Ismaël, tu as compris? Alhamdulillah. Donc, la fille de la femme, pardon, la fille de l'épouse, ne devient interdite que si je consomme le mariage. Et la mère de l'épouse devient interdite avec l'acte de mariage lui-même, le contrat suffit. Je répète, la mère de l'épouse devient interdite si seulement je fais le contrat de mariage avec sa fille. Fille de l'épouse ne devient interdite que si je consomme le mariage avec sa mère. Qui peut me dire pourquoi? Hein? Vous êtes trois personnes qui n'avez pas le point rouge. Pourquoi? En islam, subhanallah al-azim, je peux me marier avec la fille de la femme si je divorce, si sa mère meurt par exemple et que je n'ai pas consommé le mariage. Non, je peux me marier avec sa fille. Quant à, si je fais le contrat avec la fille, je ne peux pas me marier avec sa mère, même si je ne consomme pas avec sa fille. Pourquoi cette différence? Pourquoi on peut aller de la mère vers la fille et on ne peut pas aller de la fille vers la mère? Qui peut me répondre? Je vous donne une minute, Inch'Allah. Réfléchissez, moi je continue le dars, Inch'Allah ta'ala. La même chose ici pour la Rabiba. La Rabiba, peut-être, reprenez-moi si je me trompe, la Rabiba, peut-être c'est la belle-fille. Je ne sais pas si ça s'appelle belle-fille. Hein. Reprenez-moi. Quand quelqu'un se marie avec une femme et cette femme avait déjà une fille d'un autre homme, cette fille s'appelle en islam la Rabiba par rapport à l'homme qui va épouser sa mère. Comment ça s'appelle en français? Est-ce qu'on peut appeler ça belle-fille? Je ne sais pas. Naam, alhamdulillah. Donc la fille dit, celui-là c'est mon beau-père. La fille dit, celui-là c'est mon beau-père. Naam. Alhamdulillah. Celle-là, naam, l'homme ne peut jamais l'épouser. Celle-là, l'homme ne peut jamais l'épouser. Pourquoi? Parce que il a quoi? Il a consommé le mariage avec sa mère. Naam. S'il n'avait pas consommé le mariage avec sa mère, il aurait pu l'épouser. Mais maintenant qu'il a consommé le mariage avec sa mère et il est rentré, il ne peut plus épouser celle-là qui s'appelle sa belle-fille, la Rabiba. Donc la Rabiba, elle peut, avec son beau-père, se dévoiler devant lui et ne pas mettre le hijab, ni le niqab, ni rien. Pourquoi? Parce que cet homme ne peut jamais l'épouser. Et toutefois, si cet homme est par exemple vicieux ou bien a du vice, elle peut toutefois se voiler si elle veut. Naam. Se voiler si elle veut. Naam. Ismaïl et les autres, où est la réponse de ma question? Naam. Où est la réponse de ma question, Inch'Allah ta'ala? Tayyib. Ben, j'ai la réponse sous les yeux. Tu as la réponse dans la moi, Ismaël. Je la connais pas, Allah, je la vois pas dans le livre. Si tu l'as sous les yeux, dans la moi, Ismaël, jazakallah, Allah, dans la moi. Je la connais pas, Allah, dans la moi. Moi, j'ai une réponse, mais pas du livre. Taïb, Ismaël, j'attends ta réponse, Inch'Allah. C'est pas la page 123? C'est pas la page 123. Naam. C'est pas la page 123, non. Maintenant, on a compris que la mère de la femme, non, on ne peut jamais l'épouser. On ne peut jamais l'épouser, mais on peut épouser la fille de la mère, à condition que on n'ait pas consommé le mariage. Non. Si vous voulez voir quelle est la hikma, non, je ne connais pas la hikma à 100%, mais je peux vous donner une idée, c'est tout. Une idée, c'est tout. Regardez, quand je divorce une femme, ensuite, je n'ai pas consommé le mariage. Je n'ai pas consommé le mariage, j'ai fait le contrat avec une femme, ensuite je l'ai divorcée. Je peux épouser sa fille. Naam. Et la mère ne sentira rien dans son cœur. Elle sera peut-être même contente. Alhamdulillah, il a épousé ma fille. Ma fille est mieux que moi, et plus jeune et plus belle. Alhamdulillah, comme j'aime le bien à moi, j'aime à ma fille. Mais la fille n'acceptera jamais que tu la délaisses pour sa mère. Elle sera très jalouse. Naam, et tu risques de lui donner un grand choc. Subhanallah, les gens vont rire d'elle. Elle t'a délaissé pour épouser ta mère. Subhanallah, comment ta mère a accepté? Ta mère a accepté. Hein? Et ça va être une cause pour que la fille ne va peut-être plus jamais parler à sa mère. Naam. Il va y avoir la rupture entre les deux. À cause de la grande jalousie. Naam. Quant au contraire, non. Non. La mère, si on la divorce, on épouse sa fille, elle ne voit pas de grands inconvénients. Surtout que la mère, naam, a beaucoup de sentiments vers sa fille. Beaucoup plus que la fille, on en a vers la mère. Wallahu subhanahu wa ta'alam. A'lam. J'ai jamais lu ça dans un livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Il y a sûrement des sagesses. Il y a sûrement des sagesses. On revient à... Maintenant, est-ce que la mère de l'allaitement, est-ce que aussi elle est interdite ou pas? Est-ce que aussi elle est interdite ou pas? C'est-à-dire que un homme qui a épousé une femme, cette femme avait déjà tété la poitrine d'une femme, d'une autre femme qui n'est pas sa mère. Donc, en tétant la poitrine de cette femme est devenue qui? Est devenue la mère de lait de ma femme. Puisque l'islam m'interdit d'épouser la mère de ma femme, est-ce que aussi il m'interdit la mère de lait de ma femme? Voilà la question. La mère de lait de ma femme? Et puisque l'islam m'interdit d'épouser la sœur de ma femme, est-ce qu'il m'interdit aussi d'épouser la sœur de lait de ma femme? Pas la vraie sœur, la sœur de lait est comme ça. Cheikh Lahmou dit, cette question, les ulama ont divergé en cette question. Et les quatre grands rites disent que il est interdit que quelqu'un épouse la mère d'allaitement de sa femme. La mère d'allaitement de sa femme. Naam. Et ils disent, c'est pour ça qu'ils disent aussi que la femme, il lui est interdit qu'elle épouse le père de son mari par allaitement. Vous savez que la femme ne peut jamais épouser le père de son mari. Mais maintenant, est-ce qu'elle peut épouser le père de son mari? Pas son vrai père, le père d'allaitement. Ils disent non, c'est interdit. Et la même chose pour, elle ne peut pas épouser le fils, ou Ibn Zawjia, le fils de son mari par allaitement. Son mari, a un fils d'allaitement. C'est-à-dire, il a allaité, il a tété sa mère. Est-ce que son épouse peut épouser le fils de son mari par allaitement? Ils disent non, c'est interdit. Et la même chose pour l'homme. Ils disent il est interdit qu'il épouse la mère de son épouse d'allaitement. Et la fille de son épouse par allaitement. C'est-à-dire que quand quelqu'un se marie avec une femme, cette femme a déjà une fille d'allaitement. C'est-à-dire que je me marie avec une femme et ma femme va quoi? Va donner du lait à ma voisine, la fille de ma voisine. La fille de ma voisine sera qui? Sera la fille de ma femme, la fille de lait. Ils disent que moi, je ne peux pas me marier avec ma fille de lait. Parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, wa ummahatu nisa'ikum, les mères de vos femmes. Il a dit, n'épousez pas ce qu'ont épousé vos pères. Et comme ça, ça c'est qui a dit ça? C'est interdit. Qui a dit que c'est interdit? Les quatre grands rites. Malik rahimahullah, Abu Hanifa rahimahullah, Shafi'i rahimahullah et Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Les quatre ont dit que la mère de lait, la fille de lait, la soeur de lait, ceux-là, de ma femme, ne peut pas les épouser. Le fils du mari de lait et le père du mari de lait et même le frère du mari de lait, on ne peut pas les épouser. On épouse le frère peut-être après, quand le mari meurt. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Allah yirhamou, a dit que c'est permis. Cheikh l'Islam, Allah yirhamou, a dit que c'est permis. Il a dit, il n'y a pas dans la religion quelque chose qui interdit cela. Il a dit, c'est permis à la femme, qu'elle épouse le père de lait de son mari. Si jamais son mari venait à mourir. Il a dit, Ibn al-Qayyim bien sûr, a dit aussi cela. Et le contraire est vrai. Il a dit, et un homme peut épouser la mère de son épouse de lait, pas la vraie mère, la mère de lait de son épouse. Il a dit, il peut se marier avec elle. Et bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, voit cet avis. Il est de cet avis. Il dit que ce qu'a dit Cheikh l'Islam est fort. Car Allah Ta'ala a précisé que il faut qu'il soit des reins. Les interdits, il faut qu'il soit des reins et pas de lait. Allah Ta'ala a bien mis la condition, il faut que soit les interdits, il faut qu'ils soient de vos reins et non pas de lait. Et non pas de lait. وعلى هذا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه dit وعلى هذا يجوز للرجل donc il est permis à l'homme أن يتزوج أم زوجته من رضاعة donc il est permis à l'homme qu'il se marie avec la mère de sa mère de son épouse avec la mère de son épouse la mère de lait mais il a dit à condition que il a divorcé sa femme ou bien que sa femme est morte. Car, Cheikh l'Islam, Allah yarhamou, Ibn Taymiyyah, a dit que il pouvait l'épouser même si l'autre est vivante. Il dit parce que c'est une étrangère. C'est-à-dire, d'après Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, un homme peut épouser une femme. Et en même temps, il prend comme deuxième femme, il prend qui? Il prend par exemple sa sœur de lait. Ou bien sa mère de lait. Comme ça dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit il peut épouser une femme et en même temps sa sœur. Les deux à la fois, même s'il veut, la même nuit. Mais à condition qu'elle soit de lait. Ou bien la mère de son épouse de lait. Il dit c'est permis. Mais Cheikh Ibn Taymiyyah va au milieu. Il dit ça, c'est permis, mais à condition qu'ils ne les groupent pas ensemble. À condition que ça soit après un divorce, ou après quoi? Ou après la mort de la femme. Dans ce cas, il dit, il peut épouser la mère de sa femme de lait. Mais il ne peut pas les joindre les deux à la fois, comme a dit Cheikh l'Islam ابن تيمية رحمه الله. نعم. Ensuite, il va ajouter des choses. Non, beaucoup de choses que je vais laisser pour autre fois, pour Inch'Allah Ta'ala ne pas perdre beaucoup de temps. Non. Attendez, il reste ici une chose. Je vais terminer avec ça. Non. Je préfère m'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre إن شاء الله تعالى dans 5 minutes بإذن الله عز وجل. إسماعيل de Marseille, tu es là? نعم. As-tu du Coran إن شاء الله تعالى? As-tu du Coran? Et si tu en as, peux-tu en mettre? تفضل إن شاء الله, je te donne le micro. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حياكم الرحمن مرة أخرى أخي إسماعيل est-ce que tu es prêt pour lire les questions inshallah نعم الحمد لله إن شاء الله تعالى on prendra seulement une question par personne une question qui a rapport avec le mariage le divorce etc نعم Et ce n'est pas une question de aqida, ni de salat, ni d'autre chose. Ça viendra, Inch'Allah Ta'ala, il y aura spécialement 2h30 ou bien 3h, spécialement pour celles, Inch'Allah Ta'ala, et ceux qui veulent poser des questions libres. Ensuite, je voudrais dire que, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner, que c'est, Inch'Allah Ta'ala, c'est aujourd'hui, c'était le 13, 14, 15, pour ceux qui avaient... ou qui ont l'habitude de jeûner Bidna Azzawajal. Ensuite, je dirais aussi que cette semaine et ces temps-ci, mon téléphone, j'ai suspendu mes appels depuis à peu près 10 jours, jusqu'à Inch'Allah Ta'ala que je vous donne les prochaines horaires Bidna Azzawajal. Ensuite, autre chose, il y a une sœur, Naam, une seconde, Il y a une sœur qui m'a posé une question. Elle devait me téléphoner. Ensuite, elle ne sait pas que j'ai fermé le téléphone et que je ne reçois pas ces temps-ci. Et qu'elle m'avait posé deux questions. Et cette sœur, je sais qu'elle n'est pas là, mais elle a sa sœur qui peut-être est avec nous. Pour que je lui réponde dans la salle à sa sœur et qu'elle lui transmette la réponse. Pour donner quelques signes, cette sœur est du Maroc. Elle est de France, elle a fait la hijra. Au Maroc, ça fait à peu près 4 ans. Naam. Et elle a une sœur qui assiste avec nous, car la sœur du Maroc n'a pas le paltok. Non, vous savez qu'au Maroc, on ne peut pas rentrer dans le paltok qu'avec, yani, en payant. Elle a sa sœur en France, qui rentre avec nous et qui lui fait écouter par l'intermédiaire du Skype. Non. Donc, si elle se reconnaît, elle me dit, non, dites-moi la réponse, je la lui transmets, ou bien elle me dit, elle est en train de vous écouter.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous en Allah. Grande étoile était après moi et elle me dit que son ordinateur s'est bloqué. Elle a perdu son tour. Jazakallahu khayr. Je pense bien avoir compris le cours et ma question concerne le sujet du divorce. Une femme enceinte divorce par khula'a. Le mari doit-il faire le sacrifice de l'aïd pour elle et ses enfants? Et doit-il faire le sacrifice de la aqiqa quand elle accouchera de leur enfant?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. En fait, en ce qui concerne une femme enceinte qui a été divorcée par khul'a, n'am, elle restera toujours sa femme jusqu'à ce qu'elle accouche. Une femme, quand elle divorce, ou bien par khula, c'est la même chose. Mais, elle était enceinte. Et, quand une femme divorce enceinte, c'est un divorce, alhamdoulilah, ou là, c'est un khula, qui est dans la sunna. Naam. Donc, elle sera toujours sa femme, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que elle accouche. Bi-idhnillahi azzawajal. Naam. Donc, il peut faire le sacrifice de l'aïd pour elle et ses enfants, c'est toujours sa femme, et en même temps, la haqiqa. La haqiqa, bi-idnillahi azza wa jal. Naam, car son fils, c'est son fils, bi-idnillahi ta'ala. Naam. Tayyib, on passe, inshallah ta'ala, à Umnur, tafadlali. Naam, elle est toujours sa femme jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est-à-dire, il doit dépenser sur elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Tafadlali. Il me semble que Umnur n'est pas là. Umdiya. Naam. Umdiya. Attendez. Normalement, avant de commencer, on m'écrit numéro 1. Pour que je sache au moins que la personne est là. Naam. Donc c'est Umdiya Maghribiya. Naam. Umdiya. Donnez quelque chose, Yanni, qui montre que vous êtes là, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, je serai obligé de passer à Firdaus wa Kawthar. Tayyib. Umdiya. Inch'Allah Ta'ala, êtes-vous là? Tayyib. Ismaïl. Est-ce que vous m'entendez? Ismaïl, est-ce que je suis là? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, Umnur et Umdiya ne sont pas là. Non. Je vais les descendre pour qu'elles ne restent pas dans la liste comme ça. Alors qu'il y a d'autres qui attendent. Non. Et bien sûr, si elles étaient là, elles auraient écrit au moins un. Elles auraient écrit au moins un. Firdaus, tafadlali. Firdaus, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Firdaus, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Tafadlali et Jum'a, prépare ta question.
Salam alaikum. Une femme enceinte peut-elle allaiter son enfant? Barakallahu fikoum, ya cheikh. Tafadlali, ya cheikh.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, en fait, pourquoi qu'elle ne pourrait pas comment dirais-je, l'allaiter? Naam. Pourquoi? Et quelle est la chose qui empêcherait qu'elle l'allaite? Naam. Il n'y a rien dans la charia qui interdise à la femme qui est enceinte d'allaiter son enfant. Naam. Il n'y a rien dans la charia qui interdit cela. C'est pour ça que une fois, ça m'a étonné quand quelqu'un a dit, quand une sœur a dit, est-ce que je peux allaiter mon fils après les 2 années? Naam. Parce qu'il y a quelque chose qui est interdit à une mère d'allaiter son fils jusqu'à l'âge de 3 ans ou de 4 ans. Là, il y a quelque chose qui est interdit. Subhanallah al-Azim. Tayyib, Jumaï, tafadlali. Jazakillahu khayran.
Assalamu alaikum, Cheikh. Une femme peut-elle mettre comme condition lors d'une muqabala de ne pas avoir de co-épouse? Si cela est permis, si l'homme transgresse cette condition une fois marié, la femme peut-elle demander le divorce? Jazakallah khayran, ya cheikh.
Wa alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Naam, certaines disent elle peut, certaines disent elle peut pas. J'ai été convaincu par l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Naam, qui dit que elle peut dire. Naam, c'est une de mes conditions. Je ne te rends pas le halal haram. Je ne te dis pas interdit le halal. Naam, mais je te dis, laisse ce halal, ne le fais pas à cause de moi. Je n'accepte pas, je ne veux pas, je suis jalouse, etc. Et tu n'es pas obligé de te marier avec moi. Car moi, c'est une de mes conditions. Va chercher une autre épouse qui n'a pas cette condition si tu veux. Dans le cas où il accepte, hein, qu'il ne se remarie pas et que ils font le contrat de mariage et ensuite il se marie, hein, la femme peut alors annuler son mariage. Elle dit alors, je t'apprends que j'ai annulé mon mariage de toi. Naam. Inch'Allah ta'ala. Coran et Sunna. Tafadlali. Wafik. Je rappelle que quand c'est un homme et qu'il veut poser la question par micro, il peut alors, pour gagner du temps. Mais pour trouver l'homme dans le salon ici, il faut avoir les jumelles. Il faut avoir des jumelles et regarder dans la liste. Naam. Et il faut avoir des phares. Des phares pour trouver un nom. Naam. On attend, Inch'Allah, ta question. Courant et sunnah. Naam, tabi'tal. Ah, par mail. Envoie là Ismaïl par mail. le temps qu'on passe à qui? On passe à Ummu Suhail. Naam, Ummu Suhail, tafadhali. Ummu Suhail, si tu écris 1, tu es là. Si tu n'écris pas numéro 1, ça veut dire que tu n'es pas là. Et on passe à Abu Riyaz. Voilà déjà un homme qui est avec nous. Naam, Ummu Suhail, es-tu là? Ismaïl, es-tu là? Alhamdoulilah. Donc, Ummu Suhail n'est pas là, car elle n'a pas écrit numéro 1 pour dire qu'elle est présente. Naam. Abu Riyad, tafadhal. Abu Riyad, es-tu là, inshallah ta'ala? Es-tu là? Alhamdoulilah. Oum Issa, prépare-toi, inshallah. Tafadhal, on t'attend, inshallah ta'ala, tafadhal.
Salam alaikum, akhi Abou Riyad. Soit prends le micro pour poser ta question, alors Inch'Allah écrit là. Allah ybarak fik.
أم عيسى تفضلي ألوغ أم عيسى تفضلي إسماعيل تفضل
السلام عليكم. Pour la dua avant les rapports conjugaux, la femme doit-elle aussi dire la dua ou seul le mari suffit? بارك الله فيكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت إسماعيل. إسماعيل فيه صوت. الحمد لله. pour la dua l'avis le plus juste inshallah ta'ala et c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin la yarhamou que sa dua seul par le hadith Ali.
Assalamu alaikum ya Cheikh. Donc la question était pour la dua avant les rapports conjugaux. La femme doit-elle aussi dire la doua ou seul le mari suffit? Vous avez commencé à répondre et il y a eu des coupures. Allah Ta'ala a'lam, mes chers.
Salam alaykoum wa rahmatoullah. Ismaïl, fi saut. Alhamdulillah. Quand j'ai répondu à Oum Issa, est-ce que vous avez entendu la réponse? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Le début. Tayyib. Oum Issa, est-ce que c'est toi qui avais posé la question sur la doua des rapports conjugaux? Est-ce que c'est toi? Car je ne me rappelle plus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursalin. Naam. L'avis le plus juste, Incha'Allah ta'ala, et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il dit, quand l'homme fait le rapport avec sa femme, c'est lui qui fait la doua. Bismillah, l'homme jinnibna shaytan. Pourquoi? Car le prophète a dit, si l'un d'entre vous, quand il approchait sa femme, disait, Bismillah, l'homme jinnib na shaitan, jinnib shaitan ma razaqtana, vous remarquez que qu'est-ce qu'il a, et la fin du hadith, vous remarquez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si l'un de vous approchait sa femme. Donc il s'adressait aux hommes. C'est pour ça, c'est l'homme qui dit la dua et non pas la femme. Ça, c'est du côté du délil. Deuxièmement, du côté du raisonnement, c'est l'homme, Nam, qui va faire la chose sur la femme. Donc la femme, c'est à peu près une pomme, Nam, et c'est l'homme qui va manger cette pomme. Et c'est celui qui va manger la chose qui dit Bismillah, et non pas celle qui va être mangée. Nam. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Fiki barakallah. Daoud, hayyak ar-Rahman, tafadla alayk. Tayyib, lis le mail avant. Naam, Ismaël, Daoud, on s'excuse juste après ce qu'il va lire le frère. Tfadal.
Salam alaikum, il y a du sang? Salam alaikum, est-ce qu'il y a du sang? Tayyib. Alors, cher, je vous lis le mail, il est assez long. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barakallahu fikum pour le temps que vous nous consacrez. C'est le cas d'une sœur qui s'est mariée avec un frère polygame. La sœur est seule avec des enfants. Le frère lui a demandé de ne pas dévoiler son mariage avec lui de peur que la première le sache et qu'elle demande le divorce. C'est-à-dire la sœur, si la première elle sait que son mari l'est marié, elle divorce. Le frère a pris deux témoins pour le mariage et cela s'est fait par téléphone, en précisant que le frère lui a dit qu'elle n'était pas obligée d'avoir son tuteur. Elle n'est pas obligée d'avoir le tuteur. La femme, elle se marie sans tuteur, puisqu'elle était déjà mariée, et qu'il fallait absolument éviter que les familles se rencontrent à cause de la première. Il lui a dit de patienter le temps que sa première accepte la polygamie. Ensuite, une fois que le frère était marié, il venait la voir une fois toutes les 2 semaines, ou voire 3 semaines. Et ni il l'aidait dans ses factures, ni il lui faisait les courses, rien. Et la sœur lui disait de craindre Allah pour son comportement, mais rien à faire. Un jour, le frère l'appelle et lui dit: j'ai des problèmes avec ma première femme et elle a des doutes sur moi et me menace de me divorcer et j'ai pas envie de me séparer d'elle, je l'aime trop. Et il a dit à la sœur: je te divorce. Et il lui a raccroché au nez depuis, plus de nouvelles. La sœur est très mal, car quand elle s'est mariée avec ce frère, elle pensait que c'était sérieux, car avant le mariage, il lui disait qu'il voulait l'aider dans l'éducation de ses enfants et aider la sœur dans la vie de tous les jours. Et elle a compris qu'il n'était pas sérieux et que son but était seulement d'avoir des relations intimes avec elle. Donc la question est chère. Le mariage était-il valide, en sachant que le frère lui avait ramené plein de dalils sur le fait de ne pas dévoiler le mariage? Deuxième question, le frère rendra-t-il des comptes à Allah sur son comportement? Wallahu ta'ala a'lam ya sheikh, wa tafaddalu barakallahu fikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ce frère et la sœur qui s'est mariée avec lui, les deux ont commis la faute. Donc c'est celle du frère. Et il aura beaucoup de comptes à rendre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'épouser une femme sans époux, pardon, sans tuteur. Toute femme qui se marie sans tuteur est dans la zina. Le hadith est clair, sahih, et ne contient pas de poussière. Toutefois, il est possible que la femme ne savait pas cela et croyait que c'était permis, d'après les dalils qu'il a dû lui montrer, ou je ne sais pas quoi, que Allah subhanahu wa ta'ala l'excuse et lui pardonne. Ensuite, le mariage. Il se fait ouvertement. Naam, la femme a fait la faute de quoi? De ne rien chercher. Directement, elle s'est donnée. Directement, naam. Comme ça, directement, par téléphone, etc. Alors que le mariage, c'est pas comme ça. Le mariage, c'est la fête, c'est les tambours, c'est tout le monde sait. Donc, en ce sens, elle ne doit pas regretter. Elle a, en quelque sorte, payé. Elle a, en quelque sorte, payé la fête qu'elle. La faute, pardon, qu'elle venait de faire, naam, pour ne pas avoir appliqué la sunna dans le mariage et l'avoir fait secrètement. Mais les grands comptes, c'est le frère qui devra les rendre de s'être marié sans le tuteur de la femme et d'avoir divorcé comme ça, de cette façon, naam, car c'est bien clair qu'il ne la voulait que pour les rapports. C'est bien clair. Qui ne la voulait que pour ça. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, il n'en veut plus. Là, il est rassasié. Il voudrait venir à la source qui est sa première femme. Je dis à la sœur, si elle m'entend, tu dis, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khayran minha. C'était quelque chose d'écrit. C'était quelque chose d'écrit que ça allait se passer. Ça va être aussi, ça va rentrer dans ton expérience, ça va être aussi un grand dars, naam, un grand dars, naam, pour que la prochaine fois, inshallah ta'ala, qu'elle soit vraiment, yani, vigilante. Maintenant, elle n'est plus mariée à celui-là. Naam, cette personne qui l'a divorcée, elle n'est plus mariée à lui. Elle attend quoi? Elle attend ses trois monstrues. Elle attend ses trois monstrues et elle se marie avec un autre. Naam. C'est pour ça que je vous ai dit que en Europe et en France en particulier, naam, les gens ne sont pas très vigilants, surtout les sœurs. Elles ne sont pas vigilantes et elles sont niyas. Et vite, elles croient que c'est celui-là qui va lui construire les palais et les châteaux, et c'est celui-là, celui des rêves. Naam. Elle n'essaie ni de connaître sa famille, ni de Naam, directement, elle se donne comme ça facilement. Allah yaghfirhum. Naam. Tayyib. On passe, inshallah ta'ala, au suivant. C'était qui? Ismaël, lis la question, inchallah, de Daoud.
Salam alaikum, cher. Je voulais savoir si j'ai bien compris. Donc, l'épouse et son mari ont un fils. L'épouse est une fille d'un premier mariage. Le fils du couple peut se marier avec la fille de la mère, donc la demi-sœur. C'est ça. J'ai bien compris. Qui a le droit de se marier avec la fille d'un premier mariage? Barakallahu fikoum. Grande étoile me dit qu'elle a été déconnectée. Désolé pour le smile, pas fait exprès. Wallah alam, cher.
وعليكم السلام ورحمة الله. في صوت إسماعيل. نعم. J'avais dit que et Oum Daoud, tu me dis si c'est ça la question. Je vais faire une petite introduction et arriver à ta question, tu me dis si c'est ça. J'avais dit que quand quelqu'un se marie avec une femme, quelqu'un se marie avec une femme et cette femme a déjà une fille. A déjà une fille. A déjà une fille d'un premier homme. Hein? Cette fille devient la rabiba du second époux. Elle devient la rabiba. Il ne peut jamais se marier avec elle. Om Daoud, pour l'instant, c'est clair. Écrit numéro 1, si c'est clair. L'homme ne peut pas se marier. Alhamdulillah. Cet homme a un fils. Cet homme a un fils. Ce fils peut épouser la fille de son épouse. Réponse, Naam, le fils de cet homme peut épouser la fille de son épouse. C'est-à-dire, son fils à l'homme peut épouser la rabiba. La rabiba de l'homme. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala? Alhamdulillah. Taïb. Esma, tafadhali. Pardon, pour grande étoile, pardon, j'ai dit que quand quelqu'un se déconnecte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qaddara Allah ma sha fa'al. Non, parce que si on accepte une personne, on va accepter tout le monde. Et si on accepte tout le monde, on ne peut pas marcher. À chaque fois, il y a quelqu'un qui nous envoie, il dit j'ai été déconnecté, j'ai été déconnecté. Non, qaddara Allah ma sha fa'al. Inch'Allah, grande étoile, tu vas passer bien, Inch'Allah. Esma, tafadhali. Esma, si tu es là, tu crées numéro 1. Sinon, Abu Zayd 13, tafadlan. J'attends quelques secondes que la sœur écrive numéro 1. Si elle n'écrit pas numéro 1, ça veut dire qu'elle n'est pas là. Non. Donc on passe à Abu Zayd 13. Abu Zayd 13, Inch'Allah. Est-ce que tu es là? Tu es là, tu écris numéro 1. Alhamdulillah, tafadhal. Si tu veux, prends le micro.
Salam alaikum. T'as du son? Salam alaikum, cher. Cher, j'ai une question. J'ai entendu une fois un frère qui m'a dit qu'on avait le droit de se marier avec l'intention de divorcer. Khalas, ma question est finie.
Fi sawt. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt. Ce qu'a dit le cheikh, pardon, ce que t'a dit Abu Zayd, ce que t'a dit la personne, c'est en fait une fatwa de cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Une fatwa où il avait dit que en islam, c'était permis de divorcer, se marier avec l'intention de divorcer après, mais à condition qu'il ne fasse pas cela dans le contrat de mariage. Il laisse cette chose entre lui et Allah Azza wa Jal. Et on m'a dit, cette fatwa je l'ai lu personnellement, et on m'a dit que Cheikh Ibn Baz, avant de mourir, s'est rétracté. S'est rétracté de cette fatwa et ne l'a pas accepté, si je puis dire. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, quiconque fait cette chose a fait un grand péché. Cheikh Ibn Uthaymin dit, quiconque se marie avec l'intention de divorcer dans son cœur, celui-là, il a fait vraiment un péché. Car accepteras-tu toi ou la moi, accepteras-tu que quelqu'un vienne demander ta fille avec l'intention de divorcer et tu ne sais pas. Tu te prépares, tu fais la fête. Ça fait des années que tu attends ce mariage et je ne sais pas combien d'argent et je ne sais pas combien de ça. Et ensuite, une semaine après, Il téléphone, il dit, Assalamu alaikum, tout est terminé. Assalamu alaikum, c'est terminé. Subhanallah, les années que la fille attendait son premier mariage, etc. Ensuite, il a fait cette chose. Donc, celui qui fait cette chose, c'est vraiment quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment quelqu'un qui ne craint pas Allah azzawajal et qui va vraiment, vraiment, vraiment leur faire du mal, bi'idhnillah ta'ala, vraiment faire du mal. Les cheikhs et ceux qui disent que pour le talib al-ilm, il a le droit de se marier dans le pays dans lequel il va étudier, et dès qu'il a fini d'étudier, il divorce. Justement, Cheikh Ben Baz, Allah yirhmo, il a répondu en disant ce que j'ai dit. Justement, il a répondu en réponse à cette question. C'est une question pareille qu'on lui a posée. Moi, je vous dis, et je dis aussi ce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Naam, une personne peut, quand elle va dans un autre pays, par exemple, dire, elle dit dans son cœur, je me marie avec elle, mais, attention à ce qu'elle dit cette personne, elle dit pas pour divorcer, non, elle dit je me marie avec cette personne, Naam, mais si jamais, quand je termine mes études, par exemple, je lui dis, viens, on rentre dans notre pays, par exemple. Classe, j'ai terminé mes études, il faut qu'on revienne en Algérie. Donc, on revient en Algérie. Elle dit non, par exemple. Il dit alors, je la divorce. Elle dit, c'est permis. Car elle doit le suivre. Moi, je me suis marié avec toi, mais tu dois me suivre quand je reviens vers mon pays. À quoi ça sert qu'on se marie? Toi, tu vis en Europe, moi, je vis en Algérie. Il a dit, dans ce cas, il peut se marier avec une femme avec l'idée que, si jamais après, il lui demande de revenir vers le pays, elle lui dit non, moi je préfère vivre dans mon pays. Il lui dit alors, salam alaikum, vis dans ton pays avec un autre homme. Et moi je vais vivre dans mon pays avec une autre femme. Hada na'am. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais quiconque, comme j'ai dit maintenant, il se marie avec l'idée, l'intention de divorcer et dans son pays, pas dans un pays où il parle de dans son pays, celui-là il a fait, bi'idhnillah ta'ala, un grand péché, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque nous dupe. Il n'est pas de nous. Quiconque nous dupe, il n'est pas de nous. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Fi dunya tafadhali. Quand quelqu'un écrit numéro 1, ça ne fait rien. On l'attend même s'il tarde un peu. Mais l'essentiel, on sait qu'il est là. On ne perd pas de temps. Tafadhal. Abu Daoud wa Elias, prépare inshallah à toi. Pour ne pas perdre de temps, inshallah, Abu Daoud, tafadhal. Écris-moi. Numéro 1, si tu es ici, toi aussi. Le temps d'Ounia termine. Alhamdoulillah. Donc, si toi, ou bien Fidounia, celui qui pose la question, je lui réponds. Fidounia, j'ai fini, cher. Mais chez nous, il n'y a rien. Fidounia, chez nous, on ne voit rien. Nam. Blokadik pour avoir fini d'écrire, mais pas chez nous. Tu as écrit chez toi à la maison. Alors regarde, Inch'Allah Ta'ala, dans les tiroirs du bureau ou là, s'il y a la lettre que tu viens d'écrire. Elle n'est pas. Fadwa d'Ismaël.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous accorde à tous al-Firdaus, amin. Cheikh, ma femme est une Française reconvertie, ses parents sont des kuffars et ils ne sont pas mariés. Doit-elle porter le voile face à son père? Car j'ai entendu hier que une fille issue de zina devait. Les questions sont mélangées. Il va mettre la suite de la question, Inch'Allah. Elle devait quoi? Je répète la question, Cheikh. Tu vas se voiler. Assalamu alaikum. Qu'Allah nous accorde le Firdaus. Amin. Cheikh, ma femme est une Française convertie. Ses parents sont des kuffars. Ils ne sont pas mariés. Doit-elle porter le voile face à son père? Car j'ai entendu hier qu'une fille issue de Zina devait se voiler.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Daoud, écrit numéro 1 pour entendre la réponse. C'est pas fini. Tfadlan. Fidounia, on a reçu ta question, inshallah ta'ala. Tfadlan, Abu Yas, puisque c'est pas terminé, tfadlan. Ou alors, le temps que tu termines, je vais lire la question de Fidounia. J'ai fini, je l'ai mis. Alhamdulillah. Abu Daoud, tu montes, Inch'Allah? Alhamdulillah. La règle dit que quiconque, je vais donner la règle en une ligne ou deux, c'est tout, pour qu'elle soit très facile à apprendre, très facile. La règle dit que quiconque, je parle par exemple des femmes, c'est mieux, la fille, que chaque femme, chaque fille qui est issue de Zina, Naam, que les parents soient musulmans ou kuffar, elle doit se voiler devant le père, sauf si le père s'est marié avec sa femme, qu'il soit musulman ou kuffar. Le kafir, quand il se marie avec la kafira, Naam, leur mariage est accepté. Pourquoi? Car s'ils rentrent en islam, on ne leur demande pas de faire un nouveau mariage, un nouveau contrat. On les accepte comme ils sont. Donc toute personne qui est issue de fornication, que les parents soient musulmans ou non, la fille se voile devant son père biologique. Sauf s'il s'est marié avec sa mère. Ou bien mariage islamique, ou bien mariage de kuffar. L'essentiel, mon père s'est marié avec ma mère. Maintenant, je suis devenu quoi? Je suis devenu Sarabiba. Je ne peux jamais devenir sa fille, bien sûr. Mais je suis devenu Sarabiba. C'est-à-dire que ma mère, c'est comme si elle m'a eu d'un autre homme. Naam, car celui-là n'est pas mon père. Celui-là, c'est un père biologique, c'est tout. Il n'est pas mon père. Je ne peux pas me dévoiler devant lui. Naam, voilà, inshallah ta'ala, la règle générale. Abu Daoud wa Ilyas, dis-moi si tu as compris ou bien j'explique encore. Dis-moi si tu as compris ou bien j'explique encore. Alhamdulillah. C'est pour ça qu'il faut au moins inciter, les parents à ce qu'ils se marient. Il faut au moins les inciter à ce qu'ils se marient bi'idhna ta'ala. Tayyib, tfadhal, lis-moi la question de Fidounia. Ismaïl, où es-tu Ismaïl? Ya Ismaïl, es-tu là, inshallah? Tafadhal.
Assalamu alaikum. Je suis actuellement marié avec un homme qui vit au Maroc. Cela fait 3 ans et demi. Je ne désire plus rester avec cet homme. Je ne l'ai plus revu depuis. Est-ce que mon mariage est toujours valide devant Allah Ta'ala? Si oui, que dois-je faire pour divorcer de cet homme tout en sachant que lui est au Maroc et que moi je suis en France? Il y a eu consommation du mariage. Il m'a remis une dot. Dois-lui je rendre sa dot? Barakallahu fikoum. Cheikh, la question est terminée, cheikh.
Fidounia, si tu en m'entends, écris numéro 1. Inch'Allah ta'ala, il y a quelques questions qui vont être posées par le juge. Naam, le juge va te poser quelques questions. Mais c'est dommage, le juge est là, il entend, c'est tout. Il ne peut pas divorcer les gens, ni les marier. Tayyib, pendant ces 3 ans où vous ne vous êtes plus revus, est-ce qu'il y avait des contacts par téléphone, par lettre, par mail, etc.? J'attends, inch'Allah ta'ala, la réponse. Est-ce qu'il envoyait de l'argent? Est-ce que comme ça? Donc, naam, il n'envoyait pas d'argent, ma'alish, il ne dépensait pas. Mais, je voulais savoir s'il a le jugement de ce qu'on appelle, si tu as le jugement de ce qu'on appelle, Zawjat al-Mafqoud, la femme de, comment on dit ça, al-Mafqoud, la femme de celui qu'on a perdu. On n'a plus de nouvelles de lui. Quelqu'un qui va en guerre, etc. Là, qui voyage, qui ne donne plus abandonné. Quelqu'un qui ne donne plus signe de vie. Mais toi, tu dis, Inch'Allah Ta'ala, que entre vous, il y a des contacts. C'est-à-dire que, pas régulièrement, mais de temps en temps, il y a le contact. Ça veut dire que tu sais où il est, qu'il est vivant, etc. Naam. Naam. Et celui-là, pourquoi qu'il ne veut pas revenir? Quand tu lui dis, reviens, etc. Qu'est-ce qu'il dit quand vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont les excuses qu'il donne? Naam, je sais, il n'est pas de France. Il est au Maroc maintenant. Il aimerait venir, donc, et après, il aimerait venir, il ne peut pas, ou là, c'est quoi? Il aimerait venir, mais je sens qu'il ne veut venir que pour avoir ses papiers. Naam. Fidounia. J'ai à ma charge des enfants. Naam. Pourquoi, quand tu ne le contactes pas, tu ne lui dis pas divorce-moi? Pourquoi, quand tu ne le contactes pas, pourquoi tu lui dis pas de divorce-moi? Pourquoi tu lui dis pas accepte que je te donne la dot et on se sépare? Qu'est-ce que tu attends pour lui dire ces choses et pour qu'on sache qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il le lui a demandé. Naam, qui lui a demandé cette chose? Il lui a demandé. Qui? Je suis la sœur de Fidounia. Ah, alhamdoulilah, j'ai compris. Tu es la sœur de Fidounia qui écrit. D'accord. Wesmo, Fidounia, tu as dit lui a demandé. Ça veut dire son mari lui a demandé le divorce? C'est ce que tu veux dire? Son mari lui a demandé le divorce? Ah, ma sœur, elle lui a demandé. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a répondu oui. Naam, s'il a répondu oui, c'est qu'il a divorcé. Après avoir beaucoup insisté. Fidounia, il lui a dit oui, je t'ai divorcé. Ou là oui, je viendrai te divorcer. Yani, je viendrai en France pour te divorcer. Ou là oui, je t'ai divorcé. De toute façon, oui, hein? Oui, tout seul, ça suffit pas. Quand je pose deux questions, oui, je divorce. Je divorce. Je divorce. En arabe, de toute façon, en arabe, il n'y a pas je divorce. Ou talleq. Ou talleq. Il n'y a pas ou talleq. Est-ce qu'il a dit anti talleq? Est-ce qu'il a dit tu es divorcé? Tu es divorcé, c'est-à-dire maintenant, voilà. Naam. C'est ce qu'il a dit. Khlas Fidounia, on ne va pas aller très loin, inshallah ta'ala. Naam. Elle lui a demandé et elle a insisté pour le divorce et lui a dit je t'ai divorcé, naam, ça veut dire que à partir du moment où elle l'a entendu par téléphone ou bien par écrit lui dire tu es divorcé, à partir de ce moment elle compte trois monstrues, elle compte trois monstrues et après les trois monstrues elle peut se marier. Naam, pour ce qui est de la dot, elle ne doit pas la rendre. Elle ne doit pas la rendre. Naam. Elle ne doit pas la rendre s'il l'a divorcée. Elle lui a demandé le divorce et il a accepté le divorce. Naam. S'il lui a dit non, je ne divorce pas, mais on fait le khola. On fait le khola. Dans ce cas, elle lui rend la dot. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. On passe à Salama 57. Tafadlali. Fiki barakallah. Salama 57, es-tu là? Si oui, numéro 1. Sinon, Amina 597. Alhamdulillah. Fadal Ismaïl.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sheikh. Tout d'abord, c'est ma soeur qui vous a appelé du Maroc. Elle vous demande si vous pouvez lui répondre pour les questions sur la perte blanche et le sang avant les menstrues. Elle n'est pas dans la salle, mais elle vous entend. Pour les autres questions, elle voudrait que vous lui fixiez un rendez-vous téléphonique. Je ne sais pas si la question est terminée, cher.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam à 57, tu es là? طيب هذه سوني كو تا سور سبحان الله العظيم سوني كو تا سور سبحان الله العظيم طيب elle m'avait demandé la question suivante نعم elle m'avait demandé la question suivante sur les pertes blanches et le sang de menstrues نعم pour les pertes blanches si je me rappelle bien inshallah taala je lui ai répondu et je lui ai dit que même si c'était gluant c'était ça les pertes blanches et que ce n'était pas une condition que ça soit comme de l'eau. Ce n'est pas une condition que les pertes blanches soient de l'eau. Mais ça peut être pâteux. Ça peut être pâteux ou gluant. Le moyen, il n'y a plus de sang et il y a cette matière maintenant, ce nouveau liquide qui descend, gluant ou bien pâteux. Naam. En ce qui concerne le sang qui lui vient une semaine avant les règles, les vraies règles, ce qu'elle appelle elle, R- et R+, Naam, elle me dit, tafadlali. Naam, je lui ai dit, si elle se rappelle bien, je lui ai dit que c'était la couleur, hein, transparent ou blanc. Naam, que ça n'avait pas d'importance, cela dépendait des femmes. Naam, que cela dépendait des femmes. Ce n'est pas, naam, une condition que ça soit transparent, bi'idhnillah ta'ala. Naam, une seconde, inshallah. طيب سلامة، tu m'entends؟ C'est quand le sang commence à se purifier du noir, il passe au marron, il passe à l'orange, il passe au jaune. Ensuite, il va bientôt devenir blanc. Ensuite, il y a quelque chose qui apparaît. Naam, il y a un liquide qui apparaît comme ça, blanc ou bien transparent. Cela dépend des femmes. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas du tout cela. Mais le plus important, c'est le sang qui lui venait avant. Le sang qui lui venait une semaine avant, comme ça, des taches noires, et en même temps avec des contractions. Naam. Ce sang, quand j'ai demandé, on m'a dit, on m'a répondu, Bi'idhni Azza wa Jal, elle demande, pardon, est-ce que ce sang a commencé avec elle à partir de la première fois où elle a eu les menstrues? Ou bien ce sang est venu après, lorsqu'elle a grandi, ou elle s'est mariée, ou la consorte. Si le sang, naam, est venu après, il n'existait pas auparavant, et un an après, ou les 10 ans, il a commencé à venir, alors elle ne lui donne pas de l'importance, ce premier sang qui vient une semaine avant, des taches. Mais elle fait la prière avec, et elle commence à compter ses règles à partir du sang qui sort avec G et contraction dans le ventre. Il sort comme ça, Nam, avec G, si je puis dire. Nam. Ce n'est pas il coule, mais il sort avec G. C'est à partir de celui-là qu'elle commence à compter. Mais si toutefois, le sang, là, était depuis le début, la première fois qu'elle a eu les règles, elle les a eues comme ça. Nam. Dans ce cas, tout ça, c'est des règles. Tout ça, c'est des règles, à condition qu'elle ne laisse pas plus de 15 jours. Il n'y a jamais en islam des règles qui durent 16 jours. C'est-à-dire que au 15e jour, on doit se laver au maximum et dire que le sang qui coule à partir d'aujourd'hui, c'est les métrorragies. C'est un sang souillé, mais avec lequel je dois faire la prière et je dois jeûner. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. À part cela, dis-lui que très bientôt, inshallah ta'ala, je lui fixerai un rendez-vous téléphonique. Dis-lui que pour le frère qui posait la question, est-ce qu'il peut yani, faire la sadaqa pour le mort? Il lui dit que oui, il peut. Naam, il peut faire la sadaqa pour le mort. Pardon, donner de l'argent, par exemple, fi sabil, yani, elle vous entend, d'accord. Pour le mort, le frère du mort, il peut, inshallah ta'ala, faire la sadaqa avec l'intention que c'est pour l'autre. Naam. Comme moi maintenant, je vais donner par exemple 100 euros. Attendez, 100 euros c'est beaucoup. Je vais donner 1 euro. Naam, 100 c'est beaucoup. Je vais donner 1 euro et je vais dire 7 euros c'est pour Ismaël de Marseille, dans mon cœur. Je dis comme ça. 1 euro, celui-là je le donne pour qui? Pour Ismaël de Marseille. Comme ça, j'ai choisi Ismaël, comme ça quand je le rencontre, il me donne lui 10. Moi je donne 1, il donne 10. Naam. Donc, il peut, inshallah ta'ala, faire la sadaqa pour une autre personne en mettant l'intention dans le cœur que c'est pour telle personne. Allah ta'ala sait ce qui se passe dans le cœur et c'est pas la peine qu'il le dise comme ça avec yani, sa bouche. Et bientôt, inshallah ta'ala, je lui donnerai un rendez-vous téléphonique. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Amina 597, tafadhali. Alhamdulillah. C'est Yous, prends le micro si tu veux, Inch'Allah.
Salam alaikum, cher. J'ai la question du frère Youssef. La question est, cher, du frère, c'est nous, cher, ici en France, on se marie, on fait l'aqd, cher, mais sans déclarer quelque chose, ni au consulat arabe, ben, consulat marocain ou algérien ou autre, ni chez les Français. C'est-à-dire qu'on se marie on se marie à la mosquée. Sans déclarer quelque chose sur le papier, cher. Est-ce qu'on est obligé de déclarer, de faire ça à l'écrit dans un consulat, dans le consulat algérien par exemple, ou se marier civilement chez les Français? Wallahu a'lam, cher.
Bismillahirrahmanirrahim, salam. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le contrat de mariage shar'i. Shar'i. auquel a assisté le tuteur avec qui? Avec les deux témoins. Naam, ils ont fait shara'i, ce qu'on appelle le halal hada shara'i. C'est celui-là l'essentiel. Naam. Après vient le deuxième acte qui a un rapport à la mairie. Naam, qui a un rapport à la mairie, ce qui s'appelle un acte. Pourquoi? Pour préserver mes biens et pour préserver mes droits, pardon. Car demain, l'homme va dire, je ne connais pas cette femme, ni l'enfant qu'elle a dans son ventre. Il n'est pas de moi. Je ne me suis jamais marié avec elle. On lui montre le papier. On lui dit, regarde, c'est à la mairie. Tu l'as fait à la mairie le 15 janvier, Nam, 1930. En 1930, tu t'es marié. Regarde. Et à la mairie, c'est signé ici. Le maire a signé. Celui-là, donc, je peux maintenant l'emmener en prison, si je veux. Nam, ça, c'est pour préserver, c'est quoi? Ses droits. Sinon, nos droits vont quoi? Vont être, yani, disons, niés. Nam, il peut dire, je n'ai jamais connu cette femme, encore moins, je me suis marié avec elle. Mais quand je fais ces choses-là, c'est pour préserver mes droits. Quant au consulat et pas consulat, ce n'est pas très important si celui de la mairie est plus important. Non. Si celui du consulat arabe peut remplacer celui de la mairie demain, quand je veux mes droits, alors on fait celui du consulat. Mais si celui du consulat ne joue pas un grand rôle, il n'est pas très reconnu par l'État, ça veut dire que je passe à celui de l'État, qui est plus important. Non. Wallahu azza wa jal a'lam. Ummu Imran tafaddali. Écrit numéro 1, si tu es là. Fika barakallah. Alhamdulillah, et j'ai dit, je redis, pour les sœurs qui se marient sans papier, qu'elles font vraiment l'une des plus graves fautes de leur vie. Naam, l'une des plus graves fautes de leur vie. D'ailleurs, j'ai lu dans certains livres que celui de la charia de nos jours, on est obligé de le compléter par celui de la mairie. Obligé. Car autrefois, il n'y avait pas où on pouvait faire cette chose. Mais Allah Ta'ala a dit dans le Coran et le prophète A.S. dans ses hadiths que c'est très demandé d'avoir quoi? D'avoir les témoins, les papiers, etc. Naam. Et Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Il a dit, écrivez. Écrivez pour une dette seulement. Quand je te prête 50 euros, la sunna c'est qu'on écrive. Qu'en est-il, subhanallah al-azim, je vais te donner la chose la plus chère qui est en moi, sans écrire. Non, sans écrire que je t'ai donné cette chose. Subhanallah al-Azim. Et demain, juste une petite chose, il va nier. Il va dire non, ce n'est pas. Je ne me suis jamais marié avec cette femme. Non, je ne suis jamais marié. Subhanallah al-Azim. Surtout si le shaitan les a induits en erreur et ils ont consommé le mariage, elle et lui en cachette, avant la fête. Et subhanallah, il l'a divorcé. Et subhanallah, elle est enceinte. Comment qu'elle va faire s'il va nier qu'ils étaient déjà mariés? Tfadl, cher.
Assalamu alaikum. Si le père d'une sœur n'est pas salafi, il n'accepte pas que sa fille se marie avec un salafi, à qui revient la tutelle, sachant que dans sa famille, il n'y a que son oncle maternel qui est salafi? Tfadl, cher.
Premièrement, wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Premièrement, la tutelle, comme vous savez, elle commence par le père et elle monte. S'il n'y a pas le père, on va au grand-père. Ensuite, on descend au fils, si la femme était déjà mariée, et ses petits-fils. Sinon, on va aller au frère consanguin, ensuite le frère paternel. Nam, on ne va pas au frère maternel. Ensuite, on va à l'oncle paternel et son fils, le fils de l'oncle paternel, Et comme ça. Mais on ne va pas directement du père à qui? À l'oncle maternel. L'oncle maternel ne peut pas marier, car il est maternel. Il y a une femme entre l'oncle et entre la prétendante. Il y a une femme qui est la sœur de la mère de la prétendante. Donc il ne peut pas la marier. Donc la tutelle ici va à qui? Va Nam. Ce n'est pas une condition qui soit des selfs. Justement, c'est ça ce que je voulais dire dans le deuxième volet. Dans le deuxième volet, quand une femme sait que son père ne va pas la marier avec un selfs et que c'est difficile et que cela, Nam, et que il n'y a pas qui la marier. Si c'était en islam, c'est le gouverneur. Elle va au juge, le qadi la marie. En Europe, où est le gouverneur? Je suis sûr que si elle va dans un consulat ou là, ils vont refuser. Ils vont dire comment? Ton père, subhanallah, existe et nous on saute sur lui. On a peur que ton père, subhanallah, va nous ester au tribunal. On a peur, subhanallah. Non. Je dis que quand c'est comme ça, alors la fille, au moins qu'elle choisisse quelqu'un, si, au moins qu'il ne soit pas contre la salafia. C'est-à-dire quelqu'un qui, juste, inshallah ta'ala, après le mariage, accepte la da'wa, etc., pour qu'il devienne salafi bin azzawajal, si elle n'a plus le choix. Même une femme qui n'a plus le choix, que doit-elle faire? Rester à la maison sans mariage ou se marier avec quelqu'un qui n'est pas salafi, mais qui n'est pas contre? C'est-à-dire qui est oncle bin ta'ala, avec la da'wa, etc., à devenir salafi. L'essentiel, c'est quoi? Quand elle se marie, elle n'est plus sous le joug du père. Naam. Quand c'est plus le père qui commande, car elle s'est mariée, elle peut, inshallah ta'ala, faire des efforts etc., pour qu'il devienne salafi. L'essentiel, elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un qui est contre les salafis, mais elle s'est mariée avec quelqu'un qui est neutre, naam, qui aime tout le monde et comme ça, il est neutre. Naam. Il est beaucoup plus enclin à aller vers la vérité. J'habite en France, les imams non plus n'acceptent pas de salaf. Subhanallah. Pour se marier, Umm Imran, on n'a pas besoin de l'imam. Naam, celui qui veut se marier, ce n'est pas obligé qu'il ramène l'imam. Il lui suffit à lui, yani le prétendant et le tuteur de la prétendante et les deux témoins, sans imam. L'imam n'a jamais existé dans l'islam, l'imam qui marie. Ça n'a jamais existé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais on l'a appelé pour qu'il marie les gens. Venez nous marier. Mais quand il a rencontré Jabir, il lui a dit, t'es-tu marié? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu t'es marié avec une vierge ou déjà mariée? Il lui a dit, déjà mariée. Il lui a dit, pourquoi pas une vierge? Vous connaissez le hadith. Donc Jabir s'est marié. Non seulement c'est pas le prophète qui l'a marié, mais encore il ne savait même pas qu'il était marié. Eh, Naam, je veux dire les tuteurs. Naam, le tuteur. Om Imran. Le tuteur, ce n'est pas obligé qu'il soit un salafi. Naam. Il suffit qu'il soit un musulman. Un musulman qui apparemment, inshallah ta'ala, Naam, pratique l'islam. Apparemment. Eh, Naam. Et alors, si tu sais maintenant qu'il va pas te marier et que tu n'as pas un tuteur, et que tu vis dans Bilad al-Kufr. Naam, il n'accepte pas de salaf. Subhanallah, Umm Imran n'a pas compris, je crois, quand elle a dit il n'accepte pas de salaf. Naam, il n'accepte pas de salaf. Mais je vais me marier avec quelqu'un qui va devenir salafi. Même pas de personne neutre. Naam, alors il veut marier avec qui? Dis-moi, avec qui? S'il ne veut pas, personne neutre. Ils veulent comme eux. Naam, comme eux, tu n'acceptes pas, Inch'Allah Ta'ala. Naam, comme eux, tu n'acceptes pas, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas, qui rase la barbe, etc. Naam, dans ce cas, tu dois voir si l'imam, par exemple, peut te marier. Car tu n'as plus, naam, tu n'as plus celui qui peut te marier. Tu vas voir s'ils peuvent te marier, l'imam, naam, mais ce sera vraiment difficile pour une femme de se marier sans que son père ne soit d'accord, sans que son père n'accepte, etc. Ça veut dire que elle va mettre fin à la relation entre elle et son père. Non, elle va mettre fin à la relation entre elle et son père. Est-ce qu'un peu tu. Imran, toi, es-tu reconverti? Es-tu reconverti? Ou la musulmane? Algérienne. Hayakallah. Naam. Est-ce que quelqu'un de pieux peut marier? Naam. Quand la femme n'a plus de tuteur, elle essaye, naam, de voir, comme on dit, au consulat. Naam, au consulat, dans une ambassade d'un pays musulman, l'ambassade du Maroc, l'ambassade d'Algérie, l'ambassade de la Libye, comme ça. Naam. Si on ne veut pas la marier là-bas, naam, c'est un imam qui doit la marier. Si elle ne trouve pas l'imam, c'est quelqu'un de pieux. Naam, c'est quelqu'un de pieux, ce sera le dernier, la dernière étape. Juste pour que elle ne se marie pas. Juste pour que elle ne se marie pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pardon, anonyme, tafadhal ou tafadhali. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle doit essayer de passer d'abord par un consulat musulman pour voir, ou une ambassade, pour voir si on peut la marier. Naam. Si elle ne peut pas, elle va vers un imam. Elle lui dit, si vous voulez être mon tuteur pour me marier. Si elle accepte, il n'accepte pas, c'est quelqu'un de pieux qui la marie. C'est quelqu'un de pieux, bi'idhnillah ta'ala, qui la marie. Ce pieux, elle ne peut pas rester en tête à tête avec lui. Mais quand elle a des choses à lui dire, elle peut être par exemple avec une sœur. Avec une autre sœur. Et comme ça, ils ne sont pas dans la khalwa. Ils ne sont pas en tête à tête. Et elle lui dit ce qu'elle veut. Cheikh Ibn Uthaymeen, la yirhmo, permet même qu'elle prenne comme tuteur sans qui? Celui qui va se marier avec elle. Cheikh Ibn Uthaymeen dit que lui est même permis que celui-là même devienne son tuteur. Et quand il va se marier, devant les témoins, il dit, je vous prends comme témoin que je veux marier X, qu'il la cite, avec moi. Avec moi. Je suis son tuteur. Et je veux la marier avec moi. Ça, c'est la dernière étape. Quand vraiment, il n'y a personne. Et de préférence, il commence par l'étape qui vient avant cela. Il lui choisit un autre tuteur. Pour que, lorsqu'il pose la question, il dit, est-ce que vous me donnez la fille? Il dit, oui, je vous la donne. Naam, devant les témoins. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nawara, tafadhali. Écrit numéro 1, si tu es là. Alhamdoulilah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais savoir si la femme peut sortir les mains découvertes avec du henna en forme de dessin ou c'est une fitna donc elle doit porter des gants. Et aussi, est-ce que les piercings sur le nez et nombril sont permis pour plaire à son époux? Jazakumullah khayra.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou dit que la femme, quand elle met naam, le henné, naam, elle doit alors, si elle le met dans ses mains, elle doit alors cacher ses mains. Surtout si elle va mettre des dessins. Naam. C'est beaucoup plus fitna que si c'était seulement, par exemple, quelque chose de rond dans sa paume. Et maintenant, des dessins, etc., c'est beaucoup plus fitna. Donc, si elle veut mettre le henné, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mettre des gants. Naam. Quant au piercing sur le nez, le nombril, etc. Naam. Commençons par le nez. On a demandé la question. On l'a posée à Cheikh Ibn Uthaymeen, la yirhmo. Il a répondu que ce n'est pas dans les habitudes des musulmans de faire cela. Il a dit, c'est ça la base. Mais, il a dit, mais, si elle le fait, parce que maintenant on le fait, il a dit c'est permis. Il a dit, mais la base, la règle, c'est que ce n'est pas une des habitudes des musulmans. Et si vous remarquez, le piercing du nez vient des hindous. Naam, les indiennes, l'Inde. Naam, c'est de là que vient cela. C'est pour ça que vous voyez, dans nos grands-mères, la mère de ma mère, la mère de ta mère, etc., elles ne connaissaient pas cette chose. Elles connaissent le piercing des oreilles. Bien sûr. Donc, si maintenant c'est connu, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, si c'est connu, tout le monde le fait, etc., il a dit, il n'y a pas de problème pour qu'elle le fasse si elle ne le fait pas pour ressembler au kafirat, mais elle le fait par exemple pour plaire à son mari. Naam. Mais il a dit la base, c'est que ce n'est pas de nos habitudes. Taïb, la deuxième chose, pour celui du nombril, c'est un peu plus grave que celui du nez. Naam. Car celui du nombril, naam, c'est, il n'a jamais été connu, naam, dans l'islam. Et dans les femmes du prophète, ni dans les compagnons, ni dans celles qui les ont suivies. Il n'a été inventé que dernièrement, par les kafirettes. Dernièrement. Naam. Et vous savez que, en général, personne n'a le droit de découper une chose de son corps qu'avec un dalil. Notre corps ne nous appartient pas. Personne n'a le droit d'enlever quelque chose de son corps s'il n'y a pas de dalil. Il est interdit d'enlever les ongles pour l'homme et la femme. S'il n'y avait pas un hadith qui dit que on doit les enlever et ne pas les laisser plus de 40 jours. Vous remarquez que la femme n'a pas le droit d'enlever les sourcils. Pourquoi ? Il n'y a pas de dalil qui dit enlève. Au contraire, il dit c'est haram. N'a pas le droit de se raser les cheveux. C'est interdit pour la femme. N'a pas le droit de couper les cheveux si elle ne demande pas la permission à son mari. Et comme ça, l'homme, il n'a pas le droit d'enlever quoi que ce soit de son corps, ni la femme, car notre corps ne nous appartient pas. C'est une amana qui est chez nous. On doit, inshallah ta'ala, garder cette amana pour la rendre comme Allah ta'ala nous l'a donnée. On ne doit ni couper de notre corps, ni trouer notre corps qu'avec un dalil. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thabat, tafadhali. Thabat, es-tu là ou bien on passe à Umki? Umtalia 28. Thabat, écrit numéro 1 si tu es là. Taïb. Donc, Umki, Umtalia 28. 38, pardon. Je commence, mes phares commencent à ne plus donner, ne plus bien voir. Naam. Umtalia 38. Es-tu là? Alhamdulillah. Et vous remarquez, subhanallah al-azim, vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit que vous suivrez, subhanallah al-azim, vous suivrez, naam, vous suivrez les kuffars, subhanallah al-azim, dans tout ce qu'ils vont faire, jusqu'à ce que s'ils rentrent dans un trou, naam, vous allez rentrer vous aussi. Naam, il a suffi que maintenant, la kafira a fait un piercing dans son nombril, que il faut que je la suive. Subhanallah al-azim. Elle a fait un trou dans son un piercing dans son nombril. Il faut que je fasse comme elle. Subhanallah al-azim. Al-azim. Je n'ai pas de personnalité ou la quoi. Non, je suis la kafira dans les choses qui me sont utiles. La kafira ne connaît pas ces choses. La kafira n'a pas l'au-delà dans son cœur. Elle n'a pas une sharia qui suit. Elle suit ses passions, elle fait ce qu'elle veut. Naam. Et elles font beaucoup plus grave que ces choses-là. Moi, j'ai ma personnalité, subhanallah al-azim. Moi, je plairai à mon mari quand, mashallah, il me trouvera, naam, que j'apprends la science, que je fais j'assiste aux douros, que ceci, cela, naam. Et je me rends belle avec quelque chose, naam, qui est permise. Ce n'est pas en suivant les kafirettes que je vais devenir belle. Taïb, tfadlal, cheikh.
Salam alaikum, cheikh. قبل أن أقرأ لكم سؤال أم التالية. الأخ أنونيم, le frère anonyme, il avait une question, elle n'a pas été terminée. C'était comment la soeur doit se comporter avec celui qui, avec son tuteur. Est-ce que, comment ça se passe, comment elle doit se comporter avec son tuteur et est-ce qu'elle a le droit de rester seule avec lui dans une même pièce? Wallahu ta'ala alam, c'était ça la question que j'ai aussi un peu veillé, cheikh.
Ismaël, tu es là? Ismaël, Allah yadik, toi et celui qui t'a envoyé la question. Subhanallah al-Azim, j'ai répondu à ça. J'ai dit que, au moins elle prenait une sœur avec elle. Elle restait pas en tête à tête avec lui. Je me rappelle très bien avoir dit ça. J'ai dit, elle n'a pas le droit de rester en tête à tête avec lui dans une chambre. Le tuteur, elle. mais au moins une autre sera avec elle, au moins, naam, pour ne pas être dans la khalwa, naam, ou bien lui parler dans la rue avec une autre sœur, naam, et ne jamais rester en tête à tête avec lui. Pour la sœur qui a posé la question, je devais lui répondre aujourd'hui, je lui dis que j'avais oublié que c'était l'Aïd, et que pendant l'Aïd, il est très difficile d'avoir les savants au téléphone. Moi, j'avais oublié que cette semaine, ça allait être l'Aïd. C'est pour ça qu'elle laisse, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, 2 ou 3 ou 4 jours. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Puis-je vous donner quelques détails? Tafadhali. Na'am. Ismaïl, tafadhali. Talia, est-ce que c'est terminé? Talia, regarde, tu as dit, et la sœur a divorcé parce qu'il est injuste. Est-ce que je comprends que la sœur a déjà divorcé? Si oui, alors où est la question si elle a divorcé? Où est sa question? Où est son problème? Ah, d'accord, ça. Jazakallahu khairan. Naam. Il ne veut pas partir, où? D'accord. Il ne veut pas sortir de chez elle, c'est ça? Écrit-moi numéro 1. Il ne veut pas sortir de chez elle. Il dit qu'il est toujours son mari. Naam. Elle, est-ce que jusqu'à présent, elle lui donne ses droits? Est-ce que jusqu'à présent, elle lui donne ses droits conjugaux? Réponds-moi. Ou bien, est-ce qu'elle lui refuse? Depuis le divorce, non. D'accord. Inch'Allah Ta'ala, comme je t'ai dit, 2, 3, 4 jours, Inch'Allah Ta'ala, j'aurai la réponse. Ensuite, tu as dit que il a signé un PIA. Il a signé un papier devant le tribunal. Quoi? Elle est divorcée. Ça? Il a signé un papier. C'est ça? Le papier du divorce, il l'a signé. Naam. Et il dit pas. Et il est divorcé. Il veut pas lui dire tu es divorcé. Il ne veut pas lui dire. Alhamdulillah. Khlas, c'est compris. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. A bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Abu Layana, tafadhal. Allah yahyik, toi aussi. Tafadhal.
Assalamu alaikum. Cheikh, ma question. Est-il permis à mon père de se marier avec la mère de ma femme, sachant que ma belle-mère est veuve, mais mon père est encore marié avec ma mère, et donc ce cas, ma femme devient sa belle-fille, est-ce que mes frères peuvent être tuteurs pour ma femme vu le cas de ce mélange? Et est-ce que mes frères peuvent être tuteurs de ma belle-mère si mon père se marie avec ma belle-mère et les frères de ma femme peuvent eux être tuteurs de mes sœurs? Voilà, c'est bon.
Si le père se marie avec la belle-mère de la sœur, donc la sœur, c'est plus son tuteur, ce n'est plus son beau-frère, mais c'est plutôt la sœur de son beau-père qui devient sa mère. Dans ce cas, seule la fille de la sœur peut avoir comme tuteur le beau-frère de son grand-père. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que tu as compris la réponse? moi-même, ce que j'ai dit, c'est incompréhensible. Je voulais te dire que, pour que tu comprennes, que ta question, il faut rester une demi-heure pour la comprendre. Il faut que je m'asseye pendant une demi-heure en train de lire sur tout ce que tu as dit vers la fin. Parce que comment tu as dit, les belles filles de mon frère peuvent être tuteurs pour ma femme. Est-ce que mes frères peuvent être tuteurs de ma belle-mère si mon père se marie avec ma belle-mère et les frères de ma femme peuvent être tuteurs de mes sœurs? Il faut rester une demi-heure pour que je la comprenne. Il faut rester une demi-heure pour la comprendre. Naam. Moi, toujours quand je veux comprendre une chose, qu'est-ce que je fais? Des fois, ma femme me dit, la voisine dit ceci, cela, et elle sait que c'est difficile à comprendre. Je lui ai dit, tu sais que c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait directement? Elle me dit, toi, ta mère s'est mariée avec X. Elle commence à citer, avec ton oncle X. Et le fils de ton oncle X veut se marier avec ta sœur X. Elle la cite par le prénom. Comme ça, pour que ça devienne clair. Ça devient clair. Mais comme ça, ce que tu as dit, franchement, je ne l'ai pas compris. Mais je peux te répondre au début, où c'est clair. Salam alaikum. Est-il permis à mon père de se marier avec la mère de ma femme, sachant que ma belle-mère est veuve? Naam, il peut. Il peut. Abu Layana, pour que tu comprennes, mon père, peut se marier avec la mère de ma femme. J'ai une femme qui a une mère. Naam, elle est veuve. Mon père peut se marier avec cette femme. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il dit, sachant que je suis veuve, mais mon père est encore marié avec ma mère. Il n'y a pas de problème. Donc, il a pris l'autre comme deuxième épouse. Et donc, dans ce cas, ma femme devient sa belle-fille. Naam, elle devient sa belle-fille. Ça, c'est clair. Est-ce que mes frères, attends ici, est-ce que ses fils peuvent être tuteurs de ma belle-mère? Tu veux dire tuteur ou tu veux dire mahram, Abu Layana? Tu veux dire tuteur ou là, tu veux dire mahram peut-être, tu veux dire? C'est-à-dire mahram, c'est ça? Ça n'a rien à voir ici, le tuteur. Tu veux dire peut-être mahram. Le tuteur, c'est quelqu'un qui veut marier une autre personne. Abu Layana, j'attends. Peut-être qu'il a quitté la salle. Si Abu Layana n'est plus ici, on va passer, inshallah ta'ala, à Mohamed. Mohamed, tafadhali. Il est là, attendez, il est là. Ça, il est là. Est-ce que ses fils peuvent être tuteurs de ma belle-mère? Mahram, il veut dire. Est-ce que ses fils? Abu Layana, les fils de qui? Les fils de mon frère? Pardon, les fils de mon père? C'est ça. Donc tu veux dire, est-ce que mes frères, Abu Layana, est-ce que mes frères peuvent être des mahrams à cette femme? Des frères consanguins? Des frères de père et de mère? C'est ça? Des frères de père et de mère? Oui. Alors moi, je vais te poser une question. Pourquoi tu parles de tes frères et tu ne parles pas de toi? Pourquoi tu poses la question en ce qui concerne tes frères? Pourquoi tu n'as pas posé la question en ce qui concerne toi, si tu es mahram? Dis-moi ça d'abord. Pourquoi? Pourquoi tu vas à tes frères? Car, y a-t-il une différence entre tes frères et toi? Pourquoi il y aura de différence? Donc écris-moi, il n'y a pas de différence. Écris-moi, il n'y a pas de différence. Moi, je suis marié avec la fille. Avec sa fille. Moi, je suis marié avec sa fille, c'est ça? Naam. Dis-moi, avec sa fille. Alhamdoulilah. Sah. Moi, je n'ai pas remarqué cela. En ce sens, il y a une différence entre toi et eux. Sah. Donc toi, tu es marié avec sa fille, tu ne peux jamais te marier avec elle. Mais tes frères, Naam, attends, tes frères, attends, puisque ton père s'est marié avec sa mère à elle, tes frères à toi deviennent un mahram pour elle, Naam. Tes frères à toi deviennent un mahram pour elle. Abu Layana, tu sais pourquoi? Parce que le père de tes frères s'est marié avec une femme. Et quand mon père se marie avec une femme, moi-même, il m'est interdit et je deviens son mahram. Et tous mes frères deviennent les mahrams de cette femme. Tous les frères deviennent les mahrams de cette femme, car le père de ses frères s'est marié avec cette femme. Naam, qui est? Elle est l'épouse de leur père. Donc, ce sont des mahrams à elle. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. طيب أم محمد تفضل. et les frères de ma femme pour mes sœurs. Et les frères de ma femme pour mes sœurs. Les frères de ma femme pour mes sœurs. Les frères de ma femme pour mes sœurs. Attends, je vois les frères de la femme, de ta femme. Qui sont-ils? Les frères de ma femme. Les frères de ta femme sont des étrangers, naam, pour tes sœurs. Les frères, la règle générale, hein, les frères de la femme, de l'épouse, sont quoi? Sont des étrangers pour mes sœurs. Mais ici, on a quoi? On a le père qui a épousé la mère, naam, la mère de ma femme. Attends une seconde, je dois réfléchir à vous, là, pour voir s'il y a une relation entre, naam, entre ce, avec ce mariage ou pas. Une seconde. Ça y est. Les frères, tu as dit les frères de ma femme pour mes sœurs. Donc les frères de qui? Les frères de ma femme. Écoute, Abou Layana, tu veux dire les enfants, tu veux dire les enfants, femmes avec laquelle ton père s'est marié, les garçons. Les garçons, c'est ça, naam, les garçons. Attends, comme pour que je comprenne, laisse-moi, je vais mettre des noms dans ma tête. Non, je vais faire de sorte comme si c'est vraiment passé. Mon père, qui va se marier avec la mère de ma mère. Inch'Allah, tu me corriges quand je me trompe, Aboulaye. Si je me trompe, tu me corriges. Mon père va se marier avec la mère de ma mère. Non? Donc, ses enfants, X, etc., est-ce qu'ils peuvent voir mes sœurs? Est-ce que mes sœurs peuvent se dévoiler devant, non, devant ces garçons? Attends une seconde, donc mon père s'est marié avec la mère de ma mère. Maintenant, les enfants sont qui pour moi? Les enfants, pour moi, ce sont... Les enfants pour moi, ce sont disons, non, ce sont pas des frères, ce sont des étrangers. Non, ce sont des étrangers. Donc, ceux-là sont des étrangers, bi'idna azzawaj. Non, ceux-là sont des étrangers. J'ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez dans le dars, quand quelqu'un se marie avec une femme, si elle ramène avec elle une fille, non, c'est la rabiba, c'est ce qu'on appelle la rabiba. Mais mon père peut se marier avec cette fille. Mon père peut se marier avec cette fille, bi'idnillahi azzawajal. Donc, elles sont, inshallah ta'ala, des étrangers. Ce ne sont pas des frères de mère et de père. Naam, ce ne sont pas des frères de mère, c'est ce que je veux dire. Ce sont des étrangers. Naam, ce sont des étrangers. Ton père, quand il s'est marié avec cette femme, elle avait déjà ces enfants-là. Elles avaient ces enfants-là. Donc, pour tes sœurs, ce sont des étrangères. Malgré le mariage. Naam. Pour le mariage, elles deviennent quoi? Elles deviennent des rabiba pour le père. Elles deviennent des rabiba pour le père. Naam. Elles deviennent des rabiba pour leur père, pour ton père à toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec sa femme. Naam. Mais pas pour les autres. Mais pas pour les autres. Mon père ne peut pas se marier avec cette femme qui est la rabiba. Naam. Mais l'autre peut. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa fille. Naam. Ce n'est pas sa fille. Bi'idnillahi ta'ala. Donc ce sont des étrangers entre eux. Inch'Allah ta'ala. Et je réfléchirai beaucoup plus la nuit, Inch'Allah ta'ala, pour te donner la réponse, Inch'Allah ta'ala, dans 2 jours. Et Abou Layana, rappelle-moi, c'est tout. Quand je suis comme ça, yani j'ai beaucoup fait travailler ma tête. نعم جو دوفيان لوغ ا ا كومبروندر دي شوز ان شاء الله. نعم اسمح لي ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ديك جو فيرموري لو لابتوب هذا ان شاء الله تعالى جو في ريستي 5 مينوت جو فيت تروفي لا ريبونس سينو ان شاء الله دون دو جو. طيب ام محمد تفضل تفضل اسمح.
السلام عليكم ورحمة الله. Est-ce qu'une femme hérite de son mari s'ils n'ont pas encore consommé le mariage? Aussi, je suis nouvelle dans le site et me demandais où je pourrais me procurer des leçons précédentes. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam. Oum Mohamed, pour les leçons précédentes, peut-être qu'on va te donner un lien. Non, peut-être qu'on va te donner un lien ou sûrement, inshallah ta'ala, les leçons précédentes. Mais exactement où elles sont, je ne sais pas. Parce que moi-même, je ne m'enregistre pas. Quand je m'enregistre, je ne m'enregistre pas. Je ne sais pas où sont les. Sûrement, il y en a avoir quelque part. Est-ce qu'une femme hérite son mari s'ils n'ont pas encore consommé le mariage? Dès qu'une femme fait le contrat de mariage avec l'homme, elle est devenue sa femme. Même s'il n'est pas quoi? Même s'il n'a pas encore consommé. C'est pour ça que si elle meurt, non, s'il meurt, pardon, pour qu'elle hérite, il faut qu'il soit mort, c'est pas la radim. Elle ne peut pas hériter s'il est vivant. Donc elle hérite de lui si jamais ils n'ont pas consommé le mariage, mais il est mort. Mort après avoir fait le contrat de mariage. Et ils n'ont pas consommé le mariage. Elle hérite, naam, le quart de tout ce qu'il a laissé. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Grande étoile, tafadhali. Si quelqu'un connaît un lien où il y a des doros, qu'il nous donne, inshallah ta'ala. Tafadhali.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Trois sœurs qui ont été agressées dans la forêt par des gitans. Une par une. Afin de chercher, je reprends la question. Trois sœurs turques ont été agressées dans la forêt par des gitans, une par une. La troisième voyant son tour arriver s'est étranglée avec son voile et elle est morte pour son honneur ou suicidée. L'une des autres a été répudiée par son mari. A-t-il le droit? Donc attention, les sœurs au parc des cerfs et à la forêt sans homme avec vous.
Est-ce que ça s'est passé en France ou bien où? C'est vraiment yani, écœurant d'entendre une chose pareille. Je n'oublierai pas de quoi? Je cherche le verbe. Ismaël, si tu trouves le verbe, dis-moi. Comment qu'on dit en français Elum ou Fulanen, Elum ou. Naam. Comment qu'on dit ça en français, le verbe Elum? Blâmer. Naam. Je n'oublierai pas de blâmer ces sœurs qui sont parties toutes seules dans la forêt, dans un jardin ou je ne sais pas où, dans un endroit désertique. Naam. La première faute vient d'elles. La femme et la sœur, subhanallah, une sœur avec le voile. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle va faire à la forêt, subhanallah al-azim. Sans homme, en Europe. Naam, ce n'est même pas dans un pays musulman. En Europe, où, subhanallah al-azim, il y a les drogués, il y a les voyous, il y a les fous, il y a les schizophrènes, les je ne sais pas quoi. Subhanallah al-azim. Donc, la première a, naam, si je comprends bien, la première n'est pas citée ici, ce qui lui est arrivé. Mais je comprends que la première a dû céder sous la contrainte. Naam, est-ce que c'est comme ça, grande étoile? Parce que ça ne parle pas de la première. Naam, est-ce que c'est comme ça? Puisque tu dis que l'autre, quand elle... Non, elles se sont battues. Elles sont battues, mais elle a cédé en fin de compte. Elle a cédé. Ou bien il lui est rien arrivé, tu veux dire? Il lui est rien arrivé aux deux autres? te forcer ça, c'est ce que je veux dire. Elle a cédé sous la contrainte. Je reprends. Je dis, elle a cédé sous la contrainte. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accepté, mais de force. Elles ont été, comme on dit, le verbe, on dit, elles ont été violées, c'est ça, de force. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne, car elles n'ont pas accepté cette chose, mais elles ont été contraintes. Il n'y a pas de contrainte en islam. Naam. En islam, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, quand une personne fait la chose sous la contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala ne la châtie pas. Ne la châtie pas. Car il y a au moins trois hadiths sahih dans ce sens. Au moins trois hadiths sahih dans ce sens. La première, dans le Bukhari, dans les trois hommes qui sont rentrés à cause de la pluie, sont rentrés dans la caverne. Ils ont fait des douas. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, tu sais que j'aimais beaucoup ma cousine et qu'un jour je lui ai demandé de faire la zina, elle n'a pas accepté. Alors j'ai attendu le jour où elle était vraiment dans le besoin et je lui ai dit, je te donne 1000 dinars en or et tu me laisses faire la chose. Et bien sûr, il a attendu jusqu'à au jour où elle était vraiment dans, yani, la daroura. Elle n'avait ni de quoi boire, ni de quoi manger, ni de rien. Et elle l'a laissé faire. Mais au moment où il s'est approché, elle lui a dit, Taqillah, et n'ouvre la bague qu'avec son droit. Et bien sûr, il a eu peur, il l'a pas fait. Vous connaissez l'histoire. Le deuxième hadith, c'est la femme qui est sortie pour faire salat sobh à la mosquée et quelqu'un qui a sauté sur elle et qui l'a violée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit. Et la troisième femme, naam, ce hadith est dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani. La troisième femme se trouve dans Irwa al-Ghalil d'Abu Khattab. Une femme, naam, elle a été violée parce que, encore, elle n'a pas été violée. Naam, elle voulait boire, elle allait mourir de soif. Quelqu'un lui a dit, je ne te donne l'eau que si tu te laisses faire. Elle n'avait que cette solution. Elle l'a laissé faire. Omar Ibn Khattab, qui est beaucoup, beaucoup jaloux, comme vous connaissez, a demandé l'avis de Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'on doit lui faire. Et Ali lui a conseillé de la laisser parce qu'elle n'a pas, elle a fait ça sous la contrainte. Et il l'a laissé et Omar Ibn Khattab lui a donné encore de l'argent en plus. Naam. Et une quatrième femme aussi dans Irwa al-Ghalil qui a la même affaire avec un berger. De toute façon, vous voyez, seulement pour de l'eau, pour du pain, etc., elle a cédé. Celle-là, elle a cédé car elle allait sûrement être étranglée si elle faisait pas cette chose. Elle s'est battue, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. C'est pour ça que celui qui a répudié sa femme s'est trompé, n'a pas fait quelque chose de bien. Il devait la seconder et non pas la divorcer. Subhanallah al-Azim. Elle vient de sortir d'une grande épreuve. Au lieu de dire miskina à ma femme, celui-là, non. Il la divorce. C'est comme si elle avait fait ça avec plaisir. Naam. Il peut la divorcer dans un sens. Si il lui avait interdit qu'elle aille là-bas, elle est partie. Ou alors, elle est partie là-bas sans lui dire. Naam. Ensuite, on lui dit, ta femme, on l'a trouvée dans la forêt avec quelqu'un qui lui a fait ça. Une a gardé, une il a gardé et aidé. L'autre l'a divorcée, la dernière est morte. Naam, j'ai bien compris. Je parle de celle qui l'a divorcée. Normalement, il la divorce pas. Au contraire, il la seconde. Naam, il lui dit, ça ne fait rien, je suis là avec toi. L'essentiel, c'est pas toi qui as accepté cette chose. On te l'a fait de force. Comme on t'a fait ça à toi, on aurait pu faire cette chose à ma mère et à ma soeur. Naam. Et même moi qui suis un homme, peut-être des hommes, des homosexuels, je ne sais pas quoi, auraient pu aussi me forcer moi et me faire la même chose. Quelle est la différence? Naam. Mais celle qui est morte, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Car en fait, si elle savait, ça se voit qu'elle n'a pas beaucoup d'ilm aussi. Si elle savait, naam, céder à la zina sous la contrainte est beaucoup mieux chez Allah que de se tuer. Car je vous ai donné les délits de la contrainte, les quatre femmes. Et se suicider, c'est quelque chose de grave, naam, mais elle s'est suicidée avec une bonne intention. Car peut-être elle était aussi jahila et ne savait pas quel est le châtiment de celui qui se suicide. Mais on a beaucoup d'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Pour son honneur, naam. Naam, pour son honneur, je comprends. Mais pour son honneur, on ne se suicide pas dans la charia. On ne se suicide pas. On laisse l'autre nous tuer. On laisse l'autre nous tuer. C'est pas nous qui se suicidons. Al-Muhim. Allah subhanahu wa ta'ala, bi-idhna ta'ala, il lui pardonnera. Bi-idhnillahi ta'ala. Car elle était jahila. Elle a fait ça pour son honneur. Elle a fait ça pour ne pas yani désobéir à Allah. C'est comme ça qu'elle a pensé. Elle a dit, je préfère mourir plutôt que qu'un voyou, qu'un gitan fasse cette chose sur moi. Al-Muhim, autre chose. Quel est mon délil ici? Mon délil, le hadith qui est dans Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim. Ils étaient plusieurs. Naam. Justement, ils ont pu faire cette chose parce qu'ils étaient plusieurs. Dans Sahih Muslim, quelqu'un, naam, un sahabi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assisté à une bataille et ensuite, il a été blessé, naam, quelque part dans son corps, et ça lui a fait tellement de mal que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déchiré les veines et il est mort. Il est mort avec des chaînes déchirées. Le hadith se trouve où? Le hadith se trouve dans Sahih Muslim, subhanallah al-adhim. Quand il est mort, il s'est suicidé celui-là, ça? Est-ce qu'il est permis à quelqu'un de se suicider parce qu'il a mal ou là il a le cancer ou là n'importe quoi? Bien au contraire, le hadith est très clair que personne ne demande la mort pour un mal qui est descendu en lui. Hadith dans le Bukhari, très clair. Personne n'a le droit de demander la mort à Allah Ta'ala pour un malheur qui l'a frappé. Taïb, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déchiré les veines. Ensuite, quelqu'un l'a vu dans le songe et il lui a dit, qu'a fait Allah Ta'ala de toi? Il lui a dit, Allah Ta'ala m'a pardonné. Il lui a dit l'autre, mais pourquoi vois-je tes deux mains entourées d'un bandeau? Il lui a dit, l'autre, il lui a répondu dans le songe, il lui a dit, Allah Ta'ala m'a dit, je ne pardonne pas à tes deux mains ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire, toi, je t'ai pardonné, mais je ne demande pas à tes deux mains, je ne pardonne pas ce qu'elles ont fait. Voyez, cette personne a raconté le songe au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car si elle avait pas raconté le songe, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, ça, c'est un songe. Moi, je prends pas les jugements d'Allah des songes. Mais maintenant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ce songe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma wali yadayhi faghfir. Ô Seigneur, et à ses mains, pardonne aussi. Et à ses mains, pardonne aussi. Et vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait des doigts, sont acceptés. Il a dit, ô Allah, à ses mains, pardonne aussi. Donc, cette personne s'est déchirée les veines et, dans le songe, il lui a dit, Allah Ta'ala m'a pardonné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a fait des doigts de bons doigts. Sinon, il serait énervé contre lui. Il aurait dit, il est en enfer. Comme il a dit de la personne qui on lui a dit, elle a volé ce qu'on appelle une sorte de chéchia. Elle a volé une petite chéchia du butin. Il a dit, celui-là, il est en enfer avec sa chéchia sur sa tête en train de brûler. Mais remarquez à cette personne, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ya Allah, pardonne aussi à ses mains. Pardonne aussi à ses mains. Donc, si on compare avec cette personne ici qui s'est battue, masha'Allah, qui s'est battue et ensuite, bien sûr, pour ne pas céder à quoi? À s'est étranglé, alors on demande à Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, de lui pardonner et de la faire rentrer au paradis et de ne pas yani, la punir parce qu'elle a fait cette chose avec bonne intention, bi-idhnillahi subhanahu azza wa jal. Il est maintenant ici 1h30 du matin. On a commencé à 10h. Ça fait 3h30 de dars. 3h30, je ne me suis pas arrêté. Comme je parle beaucoup, quand je dépasse les 3h, je commence à me sentir fatigué et j'ai des difficultés pour comprendre les choses et pour donner les dalils. Vous m'excuserez, Inch'Allah Ta'ala, si je vous quitte gentiment pour que je dorme un peu, pour me réveiller, Inch'Allah Ta'ala, pour Salat Sobh. Et encore, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un maintenant pour lui parler au moins un quart d'heure, Bidna Azzawajal. Muslim, es-tu là, Muslim? Es-tu là, Inch'Allah Ta'ala? Si tu es là, lève la main, Muslim. Comme je t'avais prouvé hier, Inch'Allah Ta'ala. Muslim, es-tu là? Muslim, Alhamdulillah, es-tu là? Les autres, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, lundi, personnalité de la femme musulmane. Dans le dars, la personnalité de la femme musulmane. Cher, il y a une chose à dire, Barakallahu fik. Tafadhali, Nouara. Tafadhali, dis-la, Inch'Allah Ta'ala. Et Muslim, Alhamdulillah, où es-tu? Comment est son nom? Où est Muslim? Je ne le vois pas. Noir, est-ce que tu as à dire? Il a un point rouge, attends une seconde. Où est Nouara, Ayatihal? Où est Nouara aussi? Naam, où est Nouara? Naam, je ne trouve pas Nouara. Si Nouara a quelque chose à dire, qu'il lève sa main alors. Qu'il lève sa main et qu'on me dise, alors il est où exactement? En haut, en bas, à droite, à gauche, où est-ce qu'il est Nouara? Naam, Nouara, je te vois maintenant. Naam, tu n'as pas le point rouge, Nouara. Nouara, tu n'as pas le point rouge. Écris ce que tu as à dire, Bidna Azzawajal. Donc vous voyez, je lance une, comment qu'on dit ça, attendez, une mise en garde. Naam, je lance une mise en garde à toutes les sœurs, naam, qui sortent de la ville et qui vont dans les forêts, etc. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui s'est passé. Naam, donc, ça doit être un dars. Un grand dars, une grande leçon pour les sœurs qui vont dans les forêts sans être accompagnées de mahram. Plus grave que cela, je vais vous dire une chose, plus grave que cela. La sœur ne doit pas accepter avec son mari d'aller à la forêt, loin des gens. Naam, car un mari, si vous ne savez pas, ne peut rien faire avec 5 ou 6 voyous qui sont armés avec des couteaux. Lui aussi, on va le ligoter et on va faire sur sa femme devant lui. Et lui est en train de voir. Et il ne peut rien faire. La femme, la sœur, doit être intelligente, vigilante. Elle dit, moi je ne pars pas à la forêt, c'est dangereux. Naam, c'est très dangereux. On va autre part, mais on ne va pas à la forêt, subhanallah l'adhim. Que peut faire un homme tout seul? Il ne peut rien faire. Wallah, il ne peut rien faire. On va lui dire, regarde, on va faire sur ta femme et toi tu es en train de voir et tu ne peux rien faire. Naam. Ismaël, qu'est-ce qu'elle a dit ou là qu'est-ce qu'il a dit Nouara? Tafadhal Ismaël.
Salam alaykoum, cheikh. On m'a dit de vous dire qu'il y a une différence entre salaf et salafi. La sœur tout à l'heure disait que son père ne supporterait pas qu'elle épouse un salaf. Mais les salafs sont morts. C'était les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Par contre, il y a les salafis qui eux sont ceux qui suivent leur voie. Voilà, c'est pour dire qu'il y a une différence et pour corriger, car beaucoup font cette erreur. Non, mes chers, et quand je vous ai posé la question, j'avais bien précisé le terme salafi, et je n'avais pas lu salaf.
Donc, jazakallahu khair Nouara, et voilà, grande étoile a posé cette question exprès pour qu'elle ait des récompenses en prévenant ses sœurs. Car quelqu'un de prévenu en vaut deux. Quelqu'un de prévenu en vaut deux. Et chaque sœur doit prévenir les autres sœurs qu'elle connaît. Naam, chaque sœur doit prévenir les autres sœurs qu'elle connaît. Et elle doit même écrire comme ça une lettre dans les mails et l'envoyer à toutes les sœurs qu'elle connaît. Attention, voilà ce qui s'est passé à je ne sais pas où, si vous citez l'endroit où elle vous a dit. Et comme ça, Bidna Azzawajal, qu'elle prenne garde. Car c'est arrivé cette fois, ça va sûrement arriver beaucoup d'autres fois. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il nous préserve des fitnas et des malheurs, et préserve nos sœurs, naam, des fitnas et des malheurs, et en particulier nos sœurs qui vivent en Europe, et en particulier nos sœurs qui vivent dans les bilad al-kufr, et qu'il leur facilite la hijra très prochainement, et qu'il leur ouvre les portes du paradis et qu'il nous ouvre tous, bi'idhnillah ta'ala, les portes du paradis, les portes de la science et les portes de la santé, bi'idhnillah azza wa jal, et l'afiyah. Et je vous rencontre, inshallah ta'ala, lundi dans le cours La personnalité musulmane. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا